Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de la F1 en live. Cette semaine, c'est un magazine. On va donc revenir sur toute l'actualité de la Formule 1. Pour m'accompagner ce soir, comme d'habitude, bonsoir Dino.
Bonsoir Shinji. Bonsoir auditeur.
Bonsoir Gus Gus. Donc lui, non, il a choisi de ne pas répondre, donc nous allons directement passer à...
Non, c'est comme d'habitude, j'éteins mon micro pendant le générique et j'ai oublié de le rallumer, donc bonsoir tout le monde.
Ah.
J'ai fait une Steph Core, on le salue s'il nous écoute.
Oui. Et bonsoir Jennifer.
Bonsoir.
Bah, c'est une bonne semaine.
Oui.
Bah c'est que le début, donc il reste quand même pas mal de jours avant avant le week-end.
Et encore une fois, on a eu de la chance puisque les annonces ont eu lieu, j'ai envie de dire, hier par rapport à notre journée d'enregistrement. C'est toujours un peu chouette pour nous quand on fait le SAV, quand les actus tombent le lundi ou le mardi dans la journée, plus que le mercredi. Vous ne trouvez pas ?
Oui.
Ah bah c'est sûr que c'est mieux. C'est, oui. mieux pour notre top 5. Hein.
Il aurait pu en avoir plus des annonces hein, quand même.
Ouais, ça aurait été...
Pas de refus.
Et comme d'habitude, on va commencer par le petit quiz, n'est-ce pas ?
Oui.
Et cette semaine, je crois que c'est Dino qui a préparé.
Ouais.
Très bien.
Le service après-vente de la F1 vous présente le duel animateur contre chroniqueur. Mais cette fois, c'est chacun pour sa gueule.
Donc Dino, nous t'écoutons.
Alors, ce sera un chiffre qui a évidemment un rapport avec la Formule 1. Je vous le rappelle, c'est le but dans ce mag. Je rappelle également que vous ne devez pas regarder le chat.
Oui.
Vérifierai s'il y a des bons indices, des bonnes orientations, des propositions totalement débiles. On verra. Puisque le chiffre du jour, et c'est bien un chiffre, j'insiste, c'est le chiffre 0.
Oh. Ah bah super, ça va nous aider, tiens.
Le chiffre 0, c'est un symbole, donc ça reste un nombre aussi, le chiffre 0.
Oui, c'est envie de
jouer. Si on s'intéresse au chiffre, okay, on s'intéresse à la typographie.
C'est quelque chose qui zéro, sera absent.
Oui.
Ah, c'est Elder, encore une fois.
Non, Elder qui reviendra bientôt, on espère.
Oui.
Ouais,
on est en train de négocier avec son fils. Parce que son fils l'a pris en otage et il faut qu'on négocie. Voilà, et son fils négocie dur, très dur.
Donc c'est quelque chose qui devrait avoir lieu ou qui aurait dû avoir lieu, mais qui n'y est pas, quoi.
Non.
Non.
C'est le montant du chèque de la FOM à Marussia.
Non, parce qu'il y aura un chèque. Puisque Marussia, pour le moment, est dixième. Et que comme on a peur que Caterham n'ait pas d'argent, on a trouvé un accord.
Pour 2012, quoi.
Alors, je réponds à Fabio Sdi. Effectivement, c'est le numéro de voiture de Damon Hill en 93, mais ça ne nous... c'est pas le cas.
Ça n'a aucun lien avec ça ?
Non.
D'accord.
Propose aussi le nombre de porte-bonheur que possède Jean-Éric Vergne.
Ah non, c'est le contraire, il en a besoin de beaucoup.
Pour avoir une troisième saison, c'est Toro Rosso, ouais, il faut... Donc c'est ça, il a une fois dans l'année, il a de la chance, c'est le moment d'avoir un contrat. Le restant...
ça n'a rien d'économique sur la F1, c'est-à-dire ça n'a rien à voir avec l'économie.
Non.
Est-ce que c'est un nombre de pilotes ?
Non, même si parmi, il peut y avoir des pilotes, je pense.
Parmi les zéros ?
Parmi les zéros ?
Alors, rapprochez tous, on a fait un groupe de zéros. Ceux qui sont pilotes, vous vous mettez à gauche, et ceux qui ne sont pas pilotes, vous mettez à droite. C'est
absurde. Bah, dire qu'ils seront absents, mais ils existent quand même.
C'est le nombre de podiums que ne fera pas Chilton.
Ça
se peut fortement.
En GP2, peut-être ?
Ouais.
Et ce n'est pas le nombre de gens qui s'attendaient à voir Kvyat titularisé, parce qu'on était au moins deux.
Donc tu dis il y aura des gens absents, ça a un rapport avec un événement qui s'est produit donc dans les trois. On attendait des personnes à un événement qui s'est produit donc dans les trois dernières semaines et donc il y a personne qui est venu.
Non, c'est juste des personnes à qui on a demandé de ne pas venir.
Ah.
C'est le nombre d'écuries qui ont refoulé Massa. Qui n'ont pas accepté Massa, justement, au contraire.
Non.
Attends, le nombre de personnes à qui on a demandé de ne pas venir.
Forcément, ça veut dire qu'on a demandé à tout le monde de venir.
Non, avant il y avait du monde.
C'était pas clair, en fait, ce que tu...
Avant, il y avait du monde, et maintenant, il y en aura zéro.
D'accord.
Il n'y en a plus.
Ah, bah, le nombre de voitures qui seront en dessous de la limite de poids.
Non. Ça, je n'ai pas de source officielle là-dessus. Donc,
Ils étaient conviés où ? À une réunion ?
Non.
À une remise de prix ?
Enfin, je pense qu'il y a eu des réunions préparatoires, mais ça serait te tromper.
Une remise de prix ? Enfin, une cérémonie ? Non. Une récompense ? Non.
Non.
À une course, en particulier.
Une course.
La course des champions ?
Non. Qui aura lieu encore cette année, et il y a déjà du monde prévu, je crois.
C'est cet événement, donc c'est une course, Annie, hein ?
Oui,
donc
oui, c'est une course.
Mais il y aura quand même du monde, tu disais.
Ah, yeah, oui, il y aura du monde, mais...
Et pas de pilote de Formule 1. Zéro pilote de Formule 1.
Lors de cet événement, il y aura des pilotes de Formule 1, mais ceux qui sont en zéro ne sont pas spécifiquement pilotes de Formule 1. Ceux qui auraient pu venir, mais qui ne sont pas venus, ils sont pas pilotes de Formule 1.
Donc c'est un événement passé, hein, on est d'accord.
Non, c'est un événement futur.
Mais pourquoi tu dis ils sont pas venus si c'est futur?
Parce que vous êtes resté dans le temps du passé, donc moi je reste dans le temps du passé.
D'accord, ok. Donc, ils ne viendront pas, c'est des pilotes. Donc il y aura zéro pilote de Formule 1 dans une course prochainement.
C'est pas des pilotes de Formule 1.
Donc il y aura zéro pilote de course, donc il y aura pas de course en fait.
Zéro pilote professionnel.
Dans l'ensemble de ces personnes, il y a peut-être des pilotes, mais je pense qu'on les connaît pas. Et puis il y a, enfin voilà, c'est pas important qu'ils soient pilotes. Voilà.
Donc il y aura zéro personne à cet événement.
Bah, c'est-à-dire qu'il y en avait qui venaient d'habitude, mais qui ne seront pas là cette année. Ce type de personnes, il y en aura zéro cette année.
D'accord, ce type de personnes...
Ça concerne une écurie en particulier ?
Non.
Donc c'est pas le vroom...
Non.
D'accord.
Qui n'aura pas lieu, donc.
Oui, ouais, mais ils auraient pu dire finalement on va le faire, mais sans les pilotes de F1 ou...
Le Mastercard ?
Non.
Non ?
C'est un lien direct avec la Formule 1, hein.
Les essais d'Abu Dhabi, il y aura aucun titulaire ?
Non. Parce que je crois même pas qu'il y aura. Non,
parce qu'ils ont déjà, eu lieu les essais jeunes pilotes à Silverstone.
Ouais, non, mais.
Donc c'est un rapport avec une des courses, une des quatre courses du championnat, une des dernières courses du championnat.
Je peux même vous dire, c'est un rapport avec la prochaine course, celle qui aura lieu ce week-end.
C'est le nombre de spectateurs qu'il y aura en Inde ?
Non. On n'est pas loin, mais non. Vous allez justement voir que c'est assez étonnant parce que ça va à l'encontre de ce que peut laisser entendre la baisse du nombre de spectateurs qu'on s'attend à voir ce week-end.
C'est le nombre de places d'hôtel qui reste disponible autour du circuit ?
Non.
Le nombre de pilotes indiens ?
Non.
Ça concerne le meeting du Grand Prix de F1 ?
Tout à fait.
D'accord. C'est une course annexe, façon, donc.
Non, ça concerne
la course
ça concerne tout le week-end, les courses annexes et le Grand Prix de Formule 1.
Mais il y aura des courses annexes ?
Je sais pas du tout s'il y en aura des courses annexes.
Voilà, ça concerne pas. C'est pas le. Comment ils appellent ça ? Ils font le tour du circuit tous à pied là. Enfin, pas tous, mais justement le.
Running track. C'est pas le. Voilà, non, c'est pas ça.
Donc c'est vraiment dans le cadre du week-end de Formule 1 avec les courses.
Ah oui, c'est dans le cadre du week-end de Formule 1. Je pensais que vous trouveriez plus rapidement.
Ah, il y aura zéro membre du corps technique de Red Bull, Adrian Newey et tout ça, ils seront tous là aux usines.
Ouais, il y aura pas un mec de chez Red Bull.
Non, mais il y aura pas les concepteurs, quoi.
Non, je pense que sincèrement, je pense que ce week-end, même Newey sera là parce que quand même le titre est plus ou moins à portée, donc c'est à vérifier, mais je pense que Newey sera là pour faire la fête.
Ça touche une équipe en particulier ?
Non. Alors, ce n'est pas le nombre de tweets relous une fois Lewis Hamilton unfollow. ce n'est pas le nombre de chaînes, le nombre de chaînes retransmettant le Grand Prix d'Inde. Ce n'est pas le nombre de chaînes indiennes.
On a un rapport avec la retransmission ou les chaînes de télé ?
Non.
Mmh. Parce qu'on sait que Franck Montagny sera pas là. Enfin, il sera pas dans la cabine en tout cas. Franck Montagny, Villeneuve.
Jacques Villeneuve.
Donc c'est pendant le week-end, mais pas dans le public. C'est vraiment dans le paddock de la F1.
Le paddock, mais pas que.
Ah, Bernie sera pas là ? Jean-Ton non plus ?
Jean-Ton, il va peut-être se cacher. Bernie, on verra.
C'est le nombre de VIP. Il y aura personne, en fait, il y aura aucun VIP.
Non. Alors, ce ne sont pas des VIP, mais ce sont des very importantes personnes quand même.
Donc c'est des acteurs majeurs du championnat, quoi.
Bah, d'une certaine manière, sans eux, il n'y a pas de championnat.
Ouais, mais ça, je veux dire.
Il n'y aura pas de quatrième commissaire ?
Non. Enfin, oui, il y en aura un, mais.
Sans ces personnes, on ne peut pas faire la course. C'est ça que tu.
Sans ces personnes, on ne peut pas faire la course.
Il n'y aura personne de Pirelli ?
Il y aura plus de pneus Pirelli.
Attends, mais sans ces personnes, on peut pas faire la course. Donc on va pas faire la course parce que c'est
alors, on va quand même la faire, mais il y a un certain type de personnes. Il y a un groupe de personnes générales sans qui on peut pas faire la course. La petite nouveauté cette année, c'est que
il y aura pas de commissaire indien. Il y aura pas de commissaire.
C'est l'inverse.
Il y aura que des commissaires de piste indiens.
Il y aura que des commissaires. Je t'accorde la bonne réponse. Tu auras le droit de nous dire ta gueule à un moment donné dans l'émission. Enfin, en tout cas, l'un d'entre nous. Zéro, c'est le nombre de commissaires de piste Bahreïni qu'il n'y aura pas cette année. Parce que, depuis 3 ans, ça fait 3 ans que mm-hmm. le Grand Prix d'Inde a lieu. La FIA avait préconisé aux organisateurs du Grand Prix d'Inde de faire appel à des commissaires étrangers lors des 3 premières éditions de son histoire afin de former et d'encadrer les commissaires locaux. Et les Indiens avaient fait appel à des commissaires du Grand Prix du Bahreïn. Alors ainsi, sur les 850 commissaires qui avaient été mobilisés lors de la course inaugurale en 2011, 250 étaient venus du Bahreïn. L'année dernière, il n'était plus que 100 sur les 750 commissaires de piste qui avaient été prévus. Et cette année, il y aura 650 commissaires qui ont été recrutés et qui seront tous des Indiens. Et cela avec l'accord de la FIA qui s'est dit satisfaite du travail accompli jusque-là par les commissaires indiens. Alors ce qui est intéressant, je le disais un peu tout à l'heure, c'est que bien que les tribunes devraient être un peu plus clairsemées que lors des 2 précédentes éditions, pour différentes raisons, les candidatures pour devenir commissaire de pistes ont littéralement explosé et témoignent donc de l'intérêt porté à la Formule 1 dans ce pays. Il faut savoir que Prabha Shankar, qui est le cofondateur du club indien des commissaires de piste et qui est membre de la commission FIA, affirme qu'il y a eu 7000 candidats cette année contre 4800 en 2012 et seulement 2000 en 2011. C'est donc des chiffres qui sont d'autant plus étonnants que il faut quand même rappeler que les commissaires de piste ne sont pas rémunérés. On est quand même dans un pays qui reste quand même très pauvre et que, comme on en a eu malheureusement la piqûre de rappel au Grand Prix du Canada, la tâche de commissaire de piste est une tâche très très dangereuse, voire mortelle, puisque sur les 13 dernières années, on a quand même eu 3 décès parmi les commissaires en Australie, au Canada cette année et à Monza en 2001, je crois. Alors, 2000. Évidemment, rassurez-vous, hein, qui dit que des commissaires indiens, on peut à craindre pour la sécurité, un peu à l'image du Grand Prix de Corée, mais bon. La sécurité devrait être plutôt bonne ce week-end parce que les commissaires qui officieront ont déjà pu s'exercer lors d'une épreuve du championnat indien de voitures de tourisme qui s'est tenue sur le circuit de Greater Noida en mi-septembre. Ils ont à cette occasion pu réviser leurs différentes tâches qui consistent, on le rappelle, à dégager les voitures accidentées ou en panne, à nettoyer les débris, à agiter les différents drapeaux lors des phases de course, mais aussi à apporter leur soutien en cas d'incendie et, peut-être un peu moins connu, à aider les officiels de la FIA dans les stands ou sur la grille de départ lors des différentes inspections. Et dans tout ce qui concerne la logistique de la FIA sur un week-end de Grand Prix. Donc voilà, c'est alors qu'il y aurait dû avoir encore des commissaires Bahreïni cette année, on a un Grand Prix qui est déjà suffisamment. Il faut que j'arrête de regarder le chat.
Oui.
On a un Grand Prix aujourd'hui qui est suffisamment mature pour avoir que des commissaires indigènes.
Oui, faut qu'on cite quand même le chat hein, et Fabius D qui nous rappelle que le chef des Indiens s'appelle Drapeau Rouge.
Elle est bonne.
Elle est bonne.
Tu seras chroniqueur en 2014, c'est bon. Par contre, il y a un truc
pour répondre
pas...
à Adelin qui pose la question sur les machines qui viennent de Bahreïn pour enlever le sable. Je crois qu'effectivement l'Inde avait fait venir des machines du Bahreïn et que c'est pour ça notamment qu'ils avaient utilisé des commissaires bahreïniens. C'est parce que ils savaient que la piste, le circuit de boule serait assez poussiéreux et que donc justement leur expérience sur des pistes poussiéreuses pouvait être d'une plus grande aide.
Ils ont peut-être leurs propres machines maintenant.
Bah, je pense que c'est des machines qu'ils ont achetées à Bahreïn qui fabriquent déjà les machines. Alors après, ils ont peut-être décidé de faire un appel d'offres et d'investir dans les super machines qui sont disponibles en NASCAR maintenant.
Ah, les Air Titan. Mais un truc que j'ai pas compris, t'as dit que les années d'avant il y a eu 850 commissaires, là il y en a que 650 alors qu'il y a plus de candidats, mais comment ça se fait qu'il y en a moins du coup?
Il y en a moins en fait parce que les premières années, c'est il faut aussi les former, donc en fait t'as des commissaires qui ont un peu double fonction. Les Bahreïni viennent vraiment en renfort. Si tu regardes sans compter les Bahreïni, la première année ils sont 600, la deuxième année ils sont 650 et cette année ils sont 650.
D'accord. Il n'y
a que des Indiens. En fait, le nombre de commissaires indiens lui ne change quasiment pas. Les Bahreïni venaient vraiment en support, venaient vraiment accompagner, guider et superviser un peu le travail des Indiens pour les former. Aujourd'hui 650 c'est ce qu'on devrait avoir sur les prochains grands prix.
Et t'as des équivalents sur d'autres grands prix, notamment la Corée.
J'ai pas réussi à trouver d'équivalent. Faudrait fouiller un peu, mais j'essaierai de chercher un peu plus et de suivre un peu ça pour faire des équivalents.
Ouais, parce que la Corée, ça m'a toujours étonné. En tout cas, dans la deuxième grande ligne droite, là, c'est la zone DRS. On dirait qu'il y a pas beaucoup d'ouverture pour intervenir sur la piste. Je me souviens, en 2012, il y a un moment, il y avait un drapeau jaune, mais ils avaient mis 3 plombs à intervenir. Du coup, ce serait intéressant de savoir effectivement si en Corée il y a autant de commissaires qu'ailleurs, parce que il me semblait qu'il n'y en avait vraiment pas beaucoup, quoi.
Oui, il y a de quoi se poser des questions en effet.
Dans la Corée, ils ont des voitures pompiers. C'est pas, c'est
là, ils ont plus de 4x4 que de commissaires.
Bon voilà, bravo Gus Gus, hein. Donc je rappelle, bravo. Tu auras le droit de dire ta gueule à l'un d'entre nous.
Ne fais pas comme moi, n'oublie pas de le faire.
Non, moi j'oublierai pas, moi. Mais je suis dégoûté parce qu'à chaque fois que je gagne le ta gueule, Ben n'est pas là pour que je me venge de tous les méfaits desquels j'ai été victime. Et...
Il le sent, en fait.
Ouais, c'est ça. cette semaine, ça va être une question pour Gus Gus. Je vais pas venir.
Allez, on va passer au podium de l'actu.
Le service après-vente de la F1 vous invite à découvrir le podium de l'actu. Le seul podium au monde à géométrie variable.
On passe aux citations, messieurs. Ah, il y a des actus ? Ah, pardon.
Mais oui, mais il y a, la surprise du lundi soir, celle qu'on n'attendait pas.
Qu'on n'attendait pas, qu'ils ont essayé de cacher, en plus.
C'est vrai, il n'y a pas grand monde qui s'attendait à ce que ce soit lui.
Ah. Ouais, mais alors, effectivement, c'est une surprise générale, mais en même temps, quand tu regardes, c'est pas si étonnant que ça.
Non, c'est vrai. Donc, pour rappel, hein, l'an prochain, d'ailleurs, on connaît les deux équipiers qu'il y aura chez Toro Rosso. Jean Gvyan continue, mais ça, on s'en doutait. Et il sera donc accompagné par le russe Daniil Gvyat.
Bravo, bonne prononciation.
Ouais, c'était très bien dit.
Tu le dis mieux que Daniel Ricciardo. Si tu dis Daniel.
Ouais, mais moi j'ai 7 ans de russe dans les pattes aussi, ça aide.
Ah ouais.
Oui. Et je peux même vous dire que j'ai regardé sur la page Wikipédia russe en cyrillique pour savoir comment se prononçait Daniil Kvyat en cyrillique. Comment, et devinez quoi?
Ça se prononce Daniil Kvyat.
Exactement.
C'est fou, c'est bien fait.
Donc il faut rappeler que c'est un pilote de GP3, si je ne me trompe pas.
Qui est actuellement deuxième du championnat GP3. Qui peut encore
deuxième du GP3, voilà.
Et c'est un pilote, faut le souligner, c'est un pilote de la filière Red Bull. Hein. Parce que bon, il faut quand même préciser, c'est plus forcément naturel chez Toro Rosso qu'il y ait des pilotes de la filière Red Bull, puisqu'on a un peu cité tout et n'importe quoi chez Toro Rosso. Donc oui. Voilà. Il est chez Ardenne d'ailleurs en GP3.
Oui, qui est en plus l'écurie managée à Ardenne par Christian Horner, donc ça aide souvent quand.
Il fait également le championnat d'Europe de Formule 3 avec Carlin. Carlin ou Caroline, je sais pas comment on dit.
Carline. Carlin, c'est...
Non, Carolin. Carolin.
C'est mon côté professeur, ménagère. Voilà,
vous voyez ce que peut apporter une femme dans une mission sur la F1? Des références aux produits ménagers. Mais après, c'est pas... Enfin, c'est un russe. Même si Helmut Marko dit que ça n'a pas d'influence, ça n'empêche pas que ça en a quand même. Quand on regarde, on a eu, je crois, c'est dimanche ou samedi, comment il s'appelle, Luis Radia, qui a déclaré que le baquet Toro Rosso était avant, donc comme signe d'une difficulté financière, enfin, d'une certaine difficulté financière. Donc, du coup, c'est pas étonnant de voir le pilote russe de la filière face au portugais et face à l'espagnol. Bon, c'est quand même le pilote russe qui a peut-être le plus de potentiel de ramener les sponsors derrière lui, surtout qu'il y a le Grand Prix de Russie. C'est pas le poids qui a pesé, ça, j'ai vérifié, je me suis dit, attends, c'est peut-être le poids qui pèse. il fait, en comparaison avec Dacosta, il fait 10 cm de plus que Dacosta et seulement 1 kg de plus.
Oui.
Il fait 1m80 pour 61 kg. Donc c'est pas pour ça.
1 kg, justement. Enfin, ça allait pas faire pencher la balance, voilà, d'un côté de l'autre.
Alors après, il y avait aussi dans les candidats, il y avait Carlos Sainz Junior. Ce qu'il faut dire, c'est que les deux chouchous ont plutôt déçu cette année dans les différents championnats. Dacosta, apparemment, sportivement, il a un peu déçu en World Series by Renault.
Et bah pourtant, plus, moi, c'est ça que je comprends pas, c'est qu'il est troisième quand même du championnat.
Oui, au final, il est troisième.
Oui, mais il est derrière les deux autres.
Ouais, oui, et puis il tient devant les deux autres, derrière les deux autres.
Ces trucs, c'est que ces dernières années, les écuries, enfin les pilotes Red Bull ont plutôt tendance à se battre pour le titre, ce qui là n'est apparemment pas le cas. Donc, en plus à ça s'ajoute apparemment des brouilles avec Helmut Marko, et donc même si on le disait quasiment près d'être signé, il fallait juste annoncer. Visiblement, c'était pas le cas. Et concernant Sainz Junior, pour le moment, il est battu par Kvyat en GP3, parce que Kvyat est deuxième et Sainz Junior est neuvième du championnat. Et il a fait quelques meetings, je crois, en World Series by Renault, Sainz Junior, et là encore, pour le moment, c'est un peu trop tôt pour juger.
Et c'est les deux, c'était leur première année en GP3 ?
Alors ça, j'ai pas vérifié, faudra regarder.
Parce que justement, il faut, voir si c'est comparable à expérience égale, quoi.
Kvyat, oui, c'était la première année, Kvyat, l'année dernière, il était en World Series en Formule 2, ouais.
En 2, ouais.
Il a fait une bonne saison l'année dernière, par contre, hein.
Il a été champion ou deuxième de la Formule, Formule Renault 2.0 Alpes.
Oui.
Je savais pas qu'il y avait une Formule Alpes.
C'est quoi Alpes?
C'est Italo-Suisse.
Ouais.
Voilà.
Ah oui, d'accord, ok.
Donc Alpes, Italo-Suisse. Et sur l'Eurocup, ouais, il a fini deuxième.
Après, sur le talent, ça va se faire. Malheureusement, on peut pas juger dans la mesure où les courses de GP3 qui les regardent.
Déjà que les courses de GP2.
Non, mais voilà.
Et c'est surtout qu'on a des contre-exemples du fait qu'un bon pilote de GP2 ou de GP3 ne fait pas forcément un bon pilote de F1 et vice versa. Donc, on peut se dire, ça peut donner une tendance, mais ça donnera jamais une réponse. Définitive, quoi. Donc, en attendant, c'est vrai que, moi j'ai mis cette info première, enfin avec le reste des transferts. Hein. J'imagine qu'on reparlera d'autres petites choses. Mais c'est vrai qu'il n'y en a pas grand-chose à y dire, quoi. Enfin, c'est vrai que comme tu le dis, Dino, c'est moins illogique que ça ne paraît quand on sait qu'il y a des circonstances avec les autres pilotes, entre les brouilles et les déceptions sur la piste de ceux qui sont plus hauts dans l'échelle. Donc après voilà.
Par contre, encore une fois, ça court-circuite un peu le GP2, dont cette année, je sais pas s'il y aura une possibilité pour un pilote de GP2 de passer en F1 l'an prochain.
Bah, surtout que les deux qui se battent pour le titre, Laimer et Bird, sont quand même dans le circuit depuis pas mal de temps, donc s'ils avaient pu venir en Formule 1.
Ouais.
Surtout Bird est quand même pilote de réserve chez Mercedes. S'il avait pu venir, ça fait longtemps que ça aurait été fait. C'est dommage parce que je trouve que c'est un très bon pilote, très sympa en plus. Et quant à Fabio Laimer, ça fait quand même pas mal de temps aussi qu'on entend parler de son nom et que s'il avait dû venir en Formule 1, s'il avait les moyens de venir en Formule 1.
Mais c'est vrai que là, le GP2, face à la GP3 ou même la 3.5, tu sais pas, alors que normalement c'est quand même censé être le marchepied final avant la F1. Là, déjà l'an dernier, le champion de GP2 n'est pas passé en F1.
Et même la 3.5, hein, c'est parce que pour le moment, bon, il y a. On va d'abord parler, mais il y a Magnussen
qui est
moins proche de Marussia, mais on sait que Van Doorn, il a avoué qu'il avait refusé une offre de Toro Rosso. Et on voit aujourd'hui, moi je vois quand même difficilement comment il pourrait récupérer un baquet. Bon, après, on peut avoir des surprises, mais ça me semble quand même assez difficile. Le troisième, c'est Da Costa. Bon, en l'état, on ne sait pas trop où il va aller. Donc, ouais, pour le moment, même en World Series by Renault, on sait pas trop.
On est peut-être dans un creux de potentiel après.
Possible, oui.
Parce que moi qui suis la World Series, justement, effectivement, l'année dernière, il y avait des pilotes qui n'ont pas été mauvais. Il y en a plusieurs qui sont venus. Donc il y a Jules Bianchi qui est venu en Formule 1. Mais cette année, il n'y a pas, j'ai pas trouvé les courses exceptionnelles. Si, il y a je me rappelle jamais de son nom, mais le Belge.
Van Doorn.
Ouais, Van Doorn. Donc lui, bon, effectivement, il a tout cartonné. Mais sinon, c'est, enfin, le championnat de 3.5, je l'ai pas trouvé sans ça cette année.
Mais même j'ai été vérifié, il n'y a aucun pilote champion de la World Series Renault 3.5 qui a accédé en Formule 1 l'année suivant son titre. Il y en
Personne,
a qu'un
ouais.
qui a accédé en Formule 1, c'est Guido van der Garde, mais il était champion en 2008. Entre-temps, il est passé en GP2 à l'époque où le GP2 était un peu plus porteur. Mais sinon, il n'y a aucun pilote de la World Series Renault 3.5 qui a été champion et qui a ensuite été promu.
Kubica a été champion, non ? Il y a longtemps,
c'est l'exception.
Il a été champion.
Après, il y a des gens qui sont passés sporadiquement, comme Vettel qui a dû faire 2-3 courses et qui en a gagné pas mal, qui est passé.
Vergne.
Oui, mais Vergne, il est fait deuxième face à Fringe.
Oui.
Comment ça s'appelle? Je me souviens plus, mais il a fait deuxième. Voilà, c'est ça, Robert Wickens. Comme Bianchi d'ailleurs, hein. Bianchi a fait deuxième face à Fringe.
C'est que les vice-champions qui passent.
Ah, ça sent bon pour Van Doorn.
Bah ouais.
Parce que bon, rappelons, profitons-en, donc le championnat World Series by Renault 3.5 a été joué, c'est Magnussen qui est champion. Magnussen pilote dans le giron McLaren.
Oui.
En GP2 et GP3, ça va se jouer à Abu Dhabi, de mémoire. Le GP2, ça va jouer donc entre Fabio Laimer et Bird, probablement. Et GP3, ça va se jouer... Alors GP3, on a donc Kvyat qui est en course pour le titre, il est à 7 points du premier, dont j'ai complètement oublié le nom. Faut dire, en GP3, je crois qu'il y a que 2-3 pilotes qu'on connaît plus ou moins. dont les noms ont circulé.
Mais c'est ça le truc, c'est que finalement, souvent on entend des noms de, depuis le karting, on sait que ça va devenir des gens qu'on va retrouver à un moment ou un autre. Bianchi, je sais pas vous, mais ça fait 10 ans que j'en entends parler.
Oui.
En 2.0, c'est un Français aussi qui a gagné. C'est
ah oui, Pierre
Galli, qui est de Bois-Guillaume.
Ouais, wouhou. Eh ben, on va faire mieux dans l'édition. Ce Bois-Guillaume, c'est à côté d'Ormont. Voilà, bon, on précise. Oui. C'est le côté un peu prout-prout de l'agglomération rouennaise.
Ouais, merci Jean-Pierre Pernaut.
À noter pour James Ismat qui demande pour le frère de Charles Pic, Arthur Pic, il est en 3.5, ouais.
Il doit être dans les 5 premiers, quelque chose dans le genre.
Non, ah, il est pas. Oui. Non, je crois pas. Non,
je crois qu'il est dans les 10 premiers. Il est.
D'ailleurs, si quelqu'un a le lien. D'ailleurs, ça m'intéresse si quelqu'un a le lien ou un moyen d'accéder au site. Mais vous savez, le site violet hein, de la Margeris, by Renault.
J'ai essayé, mais je pense que qu'il fonctionne pas. Maintenant. Ouais. Non, mais je pense qu'ils l'ont. Ils sont en train de le refaire en fait.
T'as pas de classement, t'as que dalle quoi. Donc en ce moment, c'est quand tu cherches des informations, c'est pratique.
Bah, tu vas sur Wikipédia.
Ouais.
Oui, non, mais Wikipédia n'est pas une source fiable.
Oh.
Sauf pour les FMI.
Ouais, enfin, on dit ça, mais après, quand tu regardes Formula1.com publie des grilles de départ qui sont erronées, alors que c'est pas non plus vraiment une source fiable.
Donc, oui, mais je veux pas savoir.
Qui est fiable? Sommes-nous nous-mêmes une source fiable, j'ai envie de dire?
Non, pas du tout.
Je pense pas.
Bah, donc il reste plus qu'à souhaiter bonne chance à Daniil Kvyat, hein, pour l'an prochain.
Moi, j'ai surtout adoré, c'est le petit message de Vergne, plein d'amour déjà pour son coéquipier qui est en bienvenue, compagnie. Tu sais, tu lis dans son tweet, en fait, je vais t'écraser. tu lis le mec qui est en train de se réjouir parce que il a un mec qui va lui pas faire d'ombre et qu'il va être le leader de l'équipe l'année prochaine. J'aimerais quand même qu'il se fasse taper par Kvyat.
J'ai pas vu ce qu'il a démarqué justement, j'essaie de chercher, mais enfin je suis pas.
Il a mis bienvenue à toi, je suis impatient de travailler avec toi. Il a même mis
d'accord,
un
okay.
truc en russe, voilà. Donc c'est beaucoup d'efforts, je trouve. c'est un
pour
bien
être
bel
sincère,
accueil.
Ouais.
Ah non, vous avez vu, il y a aussi Félix Dacosta cherche un nouveau collègue quoi. Du coup. Il a pu déjà tweeter ça aussi. Enfin, c'est... Oui, ça s'est précipité hier soir.
T'as Dacosta qui a partagé sa tristesse sur Twitter et t'as Daniil Kvyat qui l'a consolé. Il lui dit écoute, c'est pas grave, tu vas trouver quelque chose et compagnie.
Tu viendras me supporter sur les grands prix.
Tu vois, c'est comme si Shinji, qui est mon meilleur ami depuis plus de 10 ans maintenant, c'est comme si Shinji, il était nommé chez Canal+, et que derrière il me dit mais t'inquiète, Dino, tu vas trouver.
Tu me verras à la télé.
Ça n'arrivera pas, tu sais bien.
Je suis désolé, à ce moment-là, Shinji, je te tue.
Et nous, on te fournira les armes, Dino.
Ah, c'est gentil. On peut compter sur l'équipe du SAV. De toute façon, Shinji, il n'est pas fiable.
Ah, non, regarde, il n'était pas là le mardi
dernier. J'ai du matériel pas fiable autour de moi.
C'est pas très gentil de nous appeler matériel. Donc, on pourrait mal le prendre.
Alors sinon, si on parle des autres rumeurs de transfert... Alors, il y a eu le nom de Magnussen hein, qui est sorti. Alors, évidemment, ça sera pas chez Toro Rosso.
Il
mais on
pas
dit.
Seul.
Mais on dit. Après tout, 2015, moteur Honda, McLaren, Alonso Magnussen, pourquoi pas?
Oui.
Magnussen est un pilote du Giro McLaren.
Oui. Oui.
Et pendant ce temps-là, bon, je pense pas que Magnussen arrivera peut-être pas en 2014, mais quelqu'un comme Perez, qui est censé s'inscrire dans la durée, c'est ce qu'il nous avait dit, hein. Il est toujours officialisé, hein.
Non, tu te diras Button non plus.
Oui.
Button, ça fait 6 mois qu'il a un contrat, il est sur le point de le signer. Il a le stylo et la feuille dans la main, ça fait 6 mois qu'il attend, mais...
C'est pour ça que Magnussen, en 2015, je vois pas de ce qu'on fait de Button, du coup. Enfin, c'est... Il prend sa retraite, enfin, il est un peu poussé vers la sortie. Enfin,
ça va à rebours de ce qu'on entend à propos de Honda, qui veut les meilleurs pilotes du moment, qui veut ce qu'il y a de mieux. Ils ont Button déjà dans le giron, si tu rajoutes Alonso, ça fait sincèrement un très très bel équipage. Mm. T'as pas besoin d'aller mettre Magnussen, sauf si vraiment ils ont la conviction que Magnussen est le futur Lewis Hamilton. Mais enfin voilà, faut vraiment avoir confiance. Quoi. Enfin, c'est vrai que Magnussen, c'est un peu, bon, c'est aussi parce que c'est le fils de son père, mais
oui, qui a fait une grande carrière en F1, c'est bien connu.
Oui, mais c'est vrai que Magnussen, ça fait partie des pilotes qu'on entend, dont on entend parler, là, pareil, depuis 5-6 ans, un peu comme voilà. Les Bianchi, comme les Vettel, comme les Hamilton. Je pense que c'est celui qu'on entendait le plus parler. Ça fait partie de ces pilotes qu'on entend parler, donc c'est quand même doit y avoir quelque chose. Après, je peux pas juger, je regarde pas les séries inférieures, mais.
C'est même pas significatif en fait. Tu l'as toi-même dit. C'est un bon pilote dans les disciplines inférieures n'est pas forcément un bon pilote de F1. En fait, on n'a pas même pas à se prendre la tête à regarder les GP2, 3.5 et tout ça.
Mais moi, je prends toujours l'exemple de Kobayashi. Mm. Kobayashi, personne n'y croit quand il arrive en Formule 1. Il a pas fait grand-chose en GP2. Et là, oui, il a été champion de GP2 Asia, je crois, mais il a pas fait d'énormes résultats. Et pourtant, quand il arrive, il fait deux premières courses absolument étincelantes. Mm. Et sur sa carrière, il a quand même une très belle carrière. Et c'est une injustice incroyable qu'il soit pas en Formule 1 aujourd'hui.
Kobayashi, Raikkonen, même ouais. Maldonado, si on veut.
Oui.
N'a pas brillé en GP2, n'a brillé en GP2 que parce qu'il a fait 5 ou 6 saisons.
Oui. Sinon, du côté d'Hülkenberg, eh bien, il semble qu'il soit le choix numéro 1 de Lotus.
Malgré son poids.
Oui. Ils ont pas dit que c'était pas un problème.
Oui, non, mais oui. De toute façon, ils ont dit, c'est leur choix, ils le veulent.
Voilà.
Il faut juste qu'ils trouvent un moyen de le payer.
Ouais. Et c'est là qu'on attend la finalisation avec Quantum.
Ouais. Oui.
Feu Infinity Motorsport. Oui.
Tu sais, les mecs, ils se sont dit, les gars, on va peut-être confondre, peut-être changer de nom.
C'est bien joué avant. Faut le rappeler, Infinity Motorsport qui est Quantum, ça n'a rien à voir avec Infinity, la marque de voiture.
Ça ne s'écrit même pas pareil.
Oui,
il y a une petite différence.
Ça finit par un I, Infinity par un Y.
Voilà. Ça n'a rien à voir.
Merci, Dino.
Ça me semblait important. C'est comme Lotus. Lotus, c'est Lotus, t'as Lotus, la voiture verte, et Lotus, la voiture noire et or. Voilà.
Mais bon, voilà, maintenant c'est Quantum Motorsport, il n'y a pas de raison de confondre.
C'est bien.
Il y a aussi la rumeur d'un investissement du sultan de Brunei chez Lotus.
Ah!
J'ai lu ça sur omnicourse.it, voilà, je veux pas forcément plus d'informations, mais ça pourrait être aussi dans un package total. Ouais,
c'est vrai que s'il donne 0,0001% de sa fortune, oui, ça fait un paquet de pognon. Ouais.
Sinon, on a aussi eu une actu moteur, puisque après Mercedes, après Renault, Honda a fait rugir son V6.
Son nouvel aspirateur. Ah, c'était le V6 décidément. Non, mais c'est comme avec les autres, quoi. Il faut attendre. Il va falloir attendre le son enregistré en bord de piste pour vraiment se faire une idée, même si on sent qu'il y a. Ça n'aura pas la même sonorité que dans les années 80. Attendons avant de juger, quoi.
Ah, et puis comme clairement un coup de com.
Oui, surtout comme j'ai pu le dire sur Twitter, on sent bien qu'il y a pas de, que c'est vraiment dans les premiers tests sur le banc, parce que le moteur, ils le font monter de bas régime en haut régime, mais il n'y a pas de boîte de vitesse qui est connectée, quoi. Enfin, c'est vraiment le tout début des tests.
Bah, de toute façon, oui, c'est que de la coup de com. En même temps, c'est logique. Eux arrivent un an après. C'est une façon de dire, regardez, on arrive un an après, mais en fait,
on est là.
Ça fait, on vient pas juste de commencer notre programme. Il est là, le moteur, il existe déjà.
Oui, c'est pas
oui,
plus.
Puis ça correspond aussi à leur volonté d'être dans la lutte pour le titre dès 2015.
Dès le début,
leurs ambitions.
Ouais.
Donc ça vient aussi renforcer leurs ambitions, dire voilà, on n'a pas juste des ambitions dans le vent, on a un vrai projet derrière et on est déjà sur de bons rails.
Ce qui fait qu'il y a que le Ferrari qu'on n'a pas entendu.
Bah, chez Ferrari, il y a beaucoup de bruit, mais c'est pas le moteur.
Oui, c'est pas le moteur.
Et c'est vrai qu'au niveau du son, c'est James Sismal qui le dit sur le chat. Au niveau du son, je trouve ce moteur-là. Alors après, je me laisse pas trop bercer d'illusions parce que je pense que ça sera pas le cas dans un an. Mais le moteur est déjà un peu plus sympathique à écouter. Il me paraît un peu plus chaleureux. Même si je crois que ça va encore changer, mais
il y a moins de souffle en fait, ouais, que les autres. Mais après, voilà, les conditions sont pas les mêmes entre les trois différentes captures qu'on a entendues, donc on peut pas vraiment comparer.
Ensuite, en termes d'actu, ah oui, il y a eu lundi aussi, outre l'officialisation de Kvyat, la première réunion du groupe stratégique. Mais qu'est-ce que le groupe stratégique ? Dino, est-ce que tu le sais? Je sais, parce que c'est toi qui as cité l'actu.
Alors, le groupe stratégique, c'est ce fameux groupe des cinq écuries les cinq écuries historiques, c'est-à-dire Ferrari, McLaren.
Ça remplace autre chose, déjà.
Ça remplace pas totalement, ça complète. C'est-à-dire qu'il y aura, il y a toujours le groupe de travail technique. Les commissions, donc là où on va travailler ensemble sur l'élaboration des règlements. Mais il y a un niveau supérieur qui regroupe donc les cinq écuries historiques, notamment en termes de palmarès, que sont Ferrari, McLaren, Williams, Red Bull et Mercedes, plus en invité la meilleure écurie placée au championnat, donc autre, actuellement c'est Lotus. Ces six équipes-là disposent d'un pouvoir décisionnel, c'est-à-dire qu'elles vont valider les travaux, celles qui vont véritablement décider, mettre leur veto, etc. Et notamment ce qui a été discuté lundi, c'est la fameuse séance d'essai libre 1 qui dure 2 heures au lieu de 1 heure et demie pour permettre aux jeunes pilotes de rouler une demi-heure. C'était les essais pour les pneus, pour les pneus Pirelli la saison prochaine. Et surtout, l'un des points qui crispe un petit peu dans les équipes qui ne font pas partie de ce groupe stratégique, c'est la définition de ce qui est des pièces que l'on peut vendre à un client. Voilà. Et ça fait peur, notamment chez Force India.
Ils ont
peur aussi de devenir dépendants d'être contraint de devoir acheter des pièces clients.
Il y a ce principe de groupe stratégique. Enfin voilà, quand t'es pas dedans, forcément, c'est aussi pour ça qu'ils sont pas contents. Surtout qu'on l'a dit, ils sont 6, et vous noterez que comme par hasard, Force India est 6e. Mais bien évidemment, comme il y a Williams qui a une place automatique, eh ben non, ils y sont pas.
Mais c'est l'un des problèmes, et c'est notamment l'objet d'une inquiétude du côté de Force India qui va sans doute c'est Force India qui dit que pour eux c'est illégal ce groupe, mais visiblement même du côté des équipes qui font partie de ce groupe stratégique, on a certaines interrogations sur la légalité de ce groupe stratégique, parce que on est clairement là dans un cas où on a des équipes qui disposent d'un droit de veto sur le règlement du championnat. Et donc, ils ont une position avantageuse par rapport à d'autres concurrents. Et comme le dit Force India, on paye les mêmes droits d'entrée. Enfin, quoi que c'est plus exactement vrai maintenant.
Oui.
Allez, le jour où Force India paye pareil que Red Bull, on en discutera.
Ils seront contents.
Mais voilà, donc c'est aujourd'hui, c'est la position, c'est de dire voilà, on est tous des concurrents et il y en a qui ont un avantage, c'est qu'ils peuvent, grosso modo, définir le règlement technique notamment. Mais bon, c'était déjà un peu le cas avant avec Ferrari.
Voilà, mais je comprends pas d'où sort cette histoire d'illégalité, en fait. Quel texte prévoit que toutes les écuries auront un droit de vote dans telle commission, enfin.
Je pense que c'est un truc qui vient des accords Concorde, hein.
Oui.
Voilà. Alors, Totor demande pour la sixième équipe, il se base sur quel classement? Celui en cours ou celui de l'année passée? A priori, si Lotus est la... Oui.
Là pour cette année, ils sont sur c'est l'équipe de la mieux classée, donc je suppose que c'est l'année précédente. C'était Lotus l'année précédente, donc
ouais, c'était déjà voilà. Lotus, ouais.
Mais attends, mais si tu prends les six équipes de l'année passée, Williams c'est pas dedans.
Non, mais Williams, ils ont une place définitive.
C'est justement là que rentre, c'est pour ça que c'est fait dans
si
le
tu
cadre
veux, sur les,
des
sur
accords
les six,
Concorde.
Ils sont cinq à être tout le temps là, et en fait, il y a juste une sixième place qui est susceptible de changer.
D'accord.
Et c'est
Lotus qui, ouais.
Les accords Concorde, ils avaient effectivement introduit ces notions d'équipe historique, d'équipe championne et compagnie. Et donc, aujourd'hui, voilà, t'as un groupe de cinq qui est permanent. C'est un peu comme le conseil de sécurité de l'ONU. T'as des membres permanents et t'as des membres invités. Bon, là, t'as 5 membres permanents et un membre invité.
Et un membre invité. mais à ce moment-là, Force India n'a pas à se plaindre. Enfin, ils ont signé les accords Concorde comme tout le monde. Je veux dire, à un moment, si t'es pas d'accord avec ce que tu signes.
C'est-à-dire que celui qui s'est plaint, je crois que c'est le directeur adjoint. Donc lui, il a peut-être pas signé le truc, hein.
Ah oui, mais
il représente une équipe. Après, c'est aussi leur position. C'est aussi, même s'ils l'ont signé, c'est aussi à eux de... Ils pouvaient pas protester avant parce que c'était en cours de négociation. S'ils protestaient avant, Bernie Ecclestone leur coupait l'herbe sous le pied et ils avaient pas du tout d'accord. Donc là, voilà, si une fois l'accord signé, c'est on l'a signé parce qu'on est en Formule 1 et qu'on a besoin des retombées. Maintenant, je pense que leur ambition, c'est d'essayer de faire changer un peu ces accords et notamment ce groupe stratégique pour revenir à une situation qui était entre guillemets celle d'avant, à savoir où tout le monde travaille ensemble.
Il est loin le temps de la FOTA.
Oui. Donc ils vont prendre des décisions sur un peu tout finalement.
Oui, parce que là, ce qui était au programme, c'est assez vaste. Effectivement, il y avait des questions à la fois sportives, mais aussi des questions techniques, comme la définition des pièces clientes et des châssis clients de manière générale. Et c'est justement ce qui inquiétait.
Et c'est, c'est décisionnaire ou c'est juste de conseil?
Non, c'est décisionnaire.
A priori, ça rapporte au Conseil mondial qui valide après.
D'accord, compris.
Donc, tout ça, c'est dans un cadre d'équilibre des pouvoirs. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui est proposé par une petite équipe, mais que les 6 du groupe stratégique n'en veulent pas, bah, ça ira jamais au Conseil mondial. Donc, c'est une sorte de filtre. Donc, ça a un côté.
Ça reste à voir. Parce qu'au Conseil mondial, il n'y a pas les écuries. Je veux dire, si les 6 écuries votent pour dans le cadre de ce comité stratégique et que le truc va en Conseil mondial, il n'y a aucune écurie de F1 qui est représentée.
Ouais, mais si justement ce groupe stratégique est reconnu comme seul pouvoir de proposition.
C'est l'une des composantes.
Tu comprends? C'est comme, je sais pas, une loi à l'Assemblée.
Justement.
Un citoyen lambda peut pas proposer une loi à l'Assemblée. Tu comprends? Il n'a pas le droit. Il faudrait qu'il passe par un député ou par 36 000 trucs. Là, c'est
pour
pareil.
Ça que c'est les 6 écuries qui ont le pouvoir et que les autres ne se feront jamais entendre. Enfin, si les autres.
Oui, ben voilà, c'est tout le problème.
Si les autres n'en veulent pas, ils vont pouvoir faire passer le truc quand même.
Mmh. Non, ils pourront pas.
Bah pourquoi?
Parce qu'il faut que ça passe par le groupe stratégique.
Non, ce qui veut dire, c'est que si les 6 veulent décider d'un truc et que les 5 autres sont pas d'accord, eh ben, ils pourront quand même faire passer le truc auprès.
C'est justement l'inquiétude des petites équipes, notamment là sur la question des châssis clients. Mmh. Alors, derrière les châssis clients, c'est plus la définition des pièces clientes. C'est les petites équipes disent, c'est quand même des grosses équipes qui, elles, détiennent les pièces, qui vont sans doute être les pièces clientes. C'est eux qui vont décider de quelles pièces on va pouvoir acheter. Et donc, indirectement, ça nous compte. Contraint nous à acheter des pièces, à nous endetter auprès de nos rivaux plutôt que de construire nos propres pièces ou de faire appel à des constructeurs extérieurs au championnat. Donc c'est parce que évidemment si par exemple t'as on va dire au hasard Sauber qui se met à acheter des boîtes de vitesse Red Bull, si t'estimes que les boîtes de vitesse Red Bull sont les meilleures, si t'es en lutte face à Sauber, bah, tu vas toi aussi devoir faire appel à des pièces clientes parce que c'est la meilleure solution, que ce soit une pièce Red Bull ou une pièce peu importe, mais tu vas être obligé de passer par ce type de solution là. Donc de contracter des dettes par rapport à d'éventuelles dettes par rapport à tes concurrents.
Enfin bon, c'est quand même une source de remous à venir.
Ah oui, complètement. Ouais.
Non, tu crois?
Et enfin, dernière actu un peu importante, je n'ai pas pu résister à cet intitulé de Dino, Pastor Maldonado privé d'argent de poche.
Ah oui, cette histoire.
Ah oui, parce qu'il y a un scandale au Venezuela qui est un peu compliqué à comprendre.
Ah oui, pour le moins.
Oui, qui est, alors j'essaie de me renseigner un peu.
J'ai abandonné, moi. C'est pour ça que j'ai
donc
pas.
Donc on a, rappelons qu'on a Pastor Maldonado qui est en partie en Formule 1, même certainement en Formule 1.
En partie. C'est drôle ça, en partie.
on va admettre qu'il y a quand même une part de talent qui est derrière ça. Pastor Maldonado est en Formule 1 avec le soutien de PDVSA, qui est la société productrice de pétrole d'État au Venezuela.
Oui, c'est pétrole de
Voilà, qui apporte 35 millions de dollars par an. Et il vient d'apparaître un scandale aux ramifications assez complexes.
Voilà, c'est pour tous les E et les...
et donc, en l'état, aujourd'hui, le ministère des Sports et le gouvernement a gelé tous les programmes de financement à l'adresse des sportifs qui sont engagés à l'étranger, en sachant que le ministre des Sports a confié que 98% du budget alloué aux sportifs engagés à l'étranger, c'était pour les sports mécaniques, à savoir Maldonado.
Donc 95% pour Maldonado.
voilà. Donc, alors, à ça, faut bien comprendre. Il y a un truc, c'est que le Venezuela est un pays qui dépend exclusivement du pétrole. Et c'est un pays qui a mis en place une politique avec Hugo Chavez et qui est prolongée par Nicolas Maduro d'une sorte d'autarcie. C'est-à-dire qu'ils veulent bien vendre leur pétrole à l'étranger, mais ils ne veulent pas trop acheter des produits à l'étranger. Et donc, notamment sur la monnaie, ça a eu un impact parce que le dollar, on ne peut pas échanger autant qu'on veut les monnaies étrangères et notamment le dollar. Ce qui fait que donc, il y a un organisme qui existe au Venezuela, qui est chargé de distribuer le dollar, qui se convertit à un taux officiel qui est de 6... Un dollar, c'est 6 bolivars 30. Le bolivar, c'est la monnaie bolivar du Venezuela.
Du Venezuela.
Voilà. Il faut savoir que, du coup, quand vous donnez des dollars, comme il y a une situation de pénurie de dollars, qui reste une monnaie d'échange internationale, c'est une monnaie qui est très recherchée et qui s'échange donc sur un marché noir. Il existe une économie parallèle. Et donc là, le dollar peut s'échanger jusqu'à 7 fois sa valeur au Venezuela. Donc du coup, il semblerait qu'il y ait certains programmes sportifs qui ont réussi à avoir des chèques de la part du gouvernement en dollars. Ils ont remis ces dollars, ou plutôt que de les verser directement à des écuries, des équipes, ils ont remis sur le marché parallèle, de manière à multiplier par 7 la valeur de l'engagement, et donc à se mettre un petit peu d'argent, quand je dis un petit peu, c'est beaucoup, d'argent dans la poche.
Oui, parce qu'il voilà. Il faut dire que les sportifs, les gens dans cette situation-là, les Maldonado, Viso, etc., ont des dérogations pour pouvoir convertir plus de dollars que les autres. Il y a une limite, voilà. Je crois, de 3000 dollars par voyage que tu peux ramener au Venezuela. Et donc, il y a une dérogation pour les sportifs et apparemment, donc, il y aurait une fraude donc de ces sportifs dont certains auraient vraiment abusé au point de convertir 66 millions de dollars en bolivar.
Il y a même la production de faux documents puisqu'il y a une soixantaine de documents qui visaient donc justement à jouer sur le donc ça s'appelle ça des déboursements. Donc j'ai pas réussi à trouver vraiment d'explication à ce qu'ils entendaient par déboursement, mais des documents, une soixantaine de documents qui ont été signés, qui ont été contrefaits avec la signature du ministre des Sports, sauf que la ministre ne les a jamais signés. Donc grosso modo, c'est des documents qui te permettent d'avoir de l'argent en dollars, sauf que ça n'a pas été signé par le ministre.
On est quand même dans un usage de faux.
Voilà, on est quand même dans un pays qui, il faut le remettre dans son contexte, donc qui est plutôt isolé, qui vit principalement du pétrole, sauf que le pétrole est un bien avant tout d'exportation. On ne fait pas vivre une économie juste en produisant du pétrole, même si c'est un pays extrêmement riche en matières premières. Ils ne sont pas dans les faits. Il n'y a pas véritablement d'industrie, il n'y a pas véritablement de recherche et développement, etc. Ils vivent vraiment juste sur l'argent du pétrole. Sauf que la politique d'abord de Chavez et maintenant de Maduro envers les internationaux et notamment envers les États-Unis, une politique qui est quand même très dure, qu'on appelle une politique d'autarcie, fait qu'aujourd'hui les contrats avec le Venezuela se font de plus en plus rares, ce qui fait que le Venezuela qui est assis vraiment sur un tas d'or, un tas de pétrole, ils ne peuvent pas le vendre parce que tout simplement ils ont de moins en moins de clients. Donc c'est un pays qui s'appauvrit. On manque là-bas de denrées aussi élémentaires que du papier toilette. Au mois de juin, il y a eu une pénurie de papier toilette et les gens allaient faire la queue dans les magasins pour aller acheter du papier toilette. On manque de sucre, on manque de lait en poudre, on manque d'énormément de choses. Et ça commence à peser. Et au niveau du gouvernement, on est un petit peu dans une entreprise de nettoyage, on va dire, d'épuration, pour essayer de, parce que c'est ce qui est en jeu derrière, c'est le système, c'est le chavisme qui est en jeu derrière. Et donc, il faut essayer de conserver le chavisme. Donc, du coup, de faire la chasse aux corruptions et aux détournements de fonds, ce qui semble être le cas dans ce qui nous intéresse. Donc, ça s'inscrit dans cette logique-là. Il faudra voir effectivement si ça aboutit à quelque chose ou pas, mais.
Qui n'aura peut-être plus sa cagnotte l'an prochain.
Alors c'est non seulement un risque pour Maldonado, parce qu'il a même plus d'argent maintenant, c'est-à-dire que les fonds sont gelés, donc même maintenant. Gelé, ouais. Par exemple, s'il ne paye pas 35 millions d'un coup, mais s'il les paye par échéance, s'il a des échéances envers William d'ici la fin d'année, ça se trouve William va peut-être lui dire, écoute Pépère, tu nous payes plus, au revoir. Et même pour Williams c'est quand même une manne financière qui est énorme. S'ils ont pas ça, étant donné qu'ils ont eu beaucoup de mal à trouver des financiers avant de faire appel à Maldonado et PDVSA, on peut quand même redouter le pire pour Williams. Et d'ailleurs, il faut lier tout ça avec une déclaration qui a été faite par Frank Williams aujourd'hui, qui insiste, voilà, que son espoir c'est de réussir à concrétiser le partenariat avec le Qatar qu'il cherche depuis des années. Et voilà, il est en train déjà de se tourner vers le Qatar et vers le Moyen-Orient pour chercher de nouveaux partenaires. C'est quand même le signe que on ne compte vraiment plus sur Maldonado l'année prochaine parce que que tu peux pas construire une équipe sur un pilote qui ne pourra peut-être pas ramener les 35 millions qu'il était censé ramener.
Oui.
Et puis faut dire que ça a déjà eu des répercussions sur d'autres coureurs, par exemple PJ Viso qui devait participer à la dernière course d'IndyCar n'a pas pu faute de fond.
Officiellement
ouais. Il était malade.
Il est même allé dans l'hôpital se prendre en photo pour dire qu'il était malade.
Il y a des rumeurs j'ai lu des rumeurs comme quoi il avait été arrêté, enfin voilà, c'est un peu flou autour de sa situation
surtout les courses américaines, enfin quand on connaît la NASCAR, l'IndyCar, c'est vrai que chez nous quand il y a un problème de financement ou de paiement, ça peut un peu tarder. Là-bas, s'il n'y a pas l'argent, s'il n'y a pas le sponsor, tu roules pas. Hein. Ils te font pas le cadeau de faire une course. Non. Ah oui,
c'est sûr que
tu roules pas. Hein.
Le plateau des championnats américains est beaucoup plus dynamique qu'en Europe, quoi.
Puis t'es sur un budget par course, ce qui est pas le cas en Formule 1.
Oui, bien sûr.
Là vraiment, t'es dans une logique aux États-Unis. Enfin, il suffit de voir la NASCAR. T'as un pilote dans une voiture, il peut avoir facilement 5 ou 6 livrées différentes durant l'année parce que en fait, les sponsors s'engagent sur un certain nombre de courses,
ouais.
Sur un événement et compagnie. Donc en fait, c'est des contrats quasiment à la course.
Mais ce qui se fait aussi un petit peu en F1 maintenant. Parce que quand tu vois que c'est l'année dernière, je sais pas si Force India avait eu justement des logos de certaines entreprises, de certains sponsors, seulement pour quelques courses.
Oui, ça peut arriver qu'il y ait des petites modifications de livret, des choses spécifiques.
C'était particulièrement visible à l'époque de Brawn. Brawn, sur la fin de saison, ils avaient quasiment un sponsor différent sur la livrée à chaque Grand Prix parce qu'ils ils passaient des contrats pour finir la saison, pour boucler les comptes. Grand Prix après Grand Prix.
Par exemple, Hülkenberg, il a pas été payé par Sauber. Bon, il a continué à rouler. On a parlé des retards de paiement de Raikkonen. Il a quand même continué à rouler.
Parce que c'est dans le sens.
Voilà. Mais en Amérique du Nord, pas de pognon, pas de sponsor, tu roules pas. Même si c'est du jour au lendemain, tu ne roules pas. Allez, reprenons avec les actus. Avec une actu citée par Gus Gus, c'est concernant la FIA qui aujourd'hui n'homologuerait pas un circuit avec le Raidillon. Tu veux dire qu'aujourd'hui, s'il devait homologuer Spa-Francorchamps, il ne le ferait pas?
Ouais, c'est un truc que j'ai lu aujourd'hui sur F1 Fanatique. C'est une interview en fait d'un employé de chez Tilke en fait, Christian Epp qui est un des directeurs de Tilke, de l'entreprise Tilke. Et il dit que alors non seulement il y a des histoires de Renault et d'asphalte, enfin là ils ont fait des efforts parce qu'ils peuvent, mais par exemple il dit que le Raidillon ne correspond pas à un virage qui pourrait faire partie d'un circuit homologué parce qu'il y a trop de contraintes de compression etc sur les voitures. Alors on savait que Monaco etc. Enfin c'était un circuit qui répondait pas à des normes de sécurité, mais bon on fait une exception. Mais si on va quand même jusqu'à interdire. Évidemment on interdit pas le Spa ou le Raidillon, mais si...
Par exemple, un circuit moderne pourrait pas ressembler à Spa, quoi.
Non, mais c'est ce qu'il dit, c'est que quand ils ont fait Austin, ils ont fait une liste, ils l'avouent, hein, c'est-à-dire ils s'en cachent pas. Ils ont fait une liste des virages les plus notoires de la Formule 1. Et donc, déjà c'était pas transposable parce que pour que le Raidillon soit un vrai virage, il faut que les F1 arrivent dessus à une certaine vitesse. Donc il a dit qu'il fallait 1 km de ligne droite avant. Puis bon, il y a la dénivellation qui fait que il pouvait pas transposer ça. Et donc, selon la FIA, c'est pas un virage qui est souhaitable sur les nouveaux circuits. Donc c'est un peu on en avait parlé l'année dernière, on avait fait un débat là-dessus sur Tilke. Le pauvre Tilke, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, et effectivement les règles FIA sont encore plus draconiennes que ce qu'on pensait.
Alors ce soir c'est la fête de la blague sur le chat, puisque pour James Ismat pose la question: Tilke, c'est pas le mec dans Stargate SG1.
Voilà, comme quoi il n'y a pas que Dino qui fait des fous.
Oui, c'est... Non, mais si, elle était drôle un peu quand même.
Non. Mais moi, je connais pas Stargate, donc je peux pas...
Mais tu connais rien, tu connais pas les chevaliers de Zodiac, tu connais pas Stargate, mais...
Ah, je confirme, je ne connais rien, mais je suis là pour connaître la F1, hein.
Pour revenir à l'objet de cette émission, à la Formule 1, on se rappelle que quand ils avaient présenté le projet de circuit d'Abu Dhabi, ils avaient dit que le premier enchaînement, ça serait une sorte de Raidillon de l'eau rouge, mais inverse. Enfin, il y avait cette idée là.
Ouais,
apparemment, effectivement, c'était pas possible de le faire.
Non, maintenant, c'est pas possible. Je veux dire, il passe à fond le truc, quoi. Il y a pas la compression, il y a pas la dénivellation qui fait que le léger dévers, etc. Enfin, Enfin voilà, j'étais un peu surpris de lire ça, un peu désolé quoi.
Donc ça veut dire que en fait théoriquement on ne devrait pas aller à Spa.
Parce non,
que
théoriquement est... on ne devrait pas aller à Spa.
Le circuit est homologué, aller... mais il est pas homologable.
Voilà, en fait. C'est un petit passe-droit. On ne devrait pas aller à Monaco, on ne devrait pas aller à Spa, on ne devrait peut-être même pas faire de course du tout dans des villes. On ne devrait pas aller en Corée du coup. Mais non, mais voilà.
Ah oui, moi je suis prêt à dire que la Corée c'est une ville. Non, Shinji, il y a une ville. Si les gens de la FIA te demandent, en Corée, il y a une ville.
Non, mais en plus, en dehors de la F1,
une grande ville.
En plus, en dehors de la F1, sur cette histoire de circuit de Corée, enfin, tu construis pas une ville comme ça. Tu te décides pas, là, je vais mettre une ville comme ça, quoi. Il faut du boulot pour les gens, quoi. C'est un peu.
Mais un Grand Prix, ça suffit.
Oui.
Tu fais une super ville dans l'année, qui ça fonctionnera. Suffit. Qui fonctionnera qu'une semaine par an. C'est une ville villégiature, tu vois. Non mais c'est ça qui est terrible, c'est qu'ils n'avaient même pas aménagé des trucs pour les équipes. Enfin voilà, ils auraient pu aménager des petites maisons, des petits lotissements, un truc résidentiel pour les pilotes, pour le public, faire un hôtel ou ce genre de choses. Non, il n'y a rien. Il y a limite qu'il y aurait ça.
Ça devait être Manhattan, hein, le truc. Hein.
Ouais, mais même sans que ce soit Manhattan, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas un seul projet New York immobilier, quoi. Ce qui est quand même dommage quand tu vois les pilotes qui sont obligés de faire je sais pas combien de kilomètres pour aller à un hôtel. Il n'y a qu'un hôtel et il est super loin.
Sinon, autre actu que tu as cité, Gus Gus, là on va parler pognon, ça fait longtemps qu'on n'a pas vraiment parlé pognon en F1, les bénéfices de la F1 seraient en hausse selon Sky.
Oui, il faut savoir, ça marche bien parce que du coup, Sky évidemment met plus de 45 millions de livres sur la table, ça va faire 60 millions de dollars, et qu'en plus la BBC retransmettant la moitié des courses en direct et le reste en différé, mais donc paye des droits quand même, met 20 millions de livres de plus, donc il doit avoir 80 millions de dollars en tout de chiffre d'affaires sur rien que sur le Royaume-Uni. Du coup, par rapport à ça, ben le chiffre d'affaires de l'entreprise mère de la F1, c'est Delta 2, je crois. Enfin, c'est un peu bizarre le montage financier, mais bon, peu importe. Il est de 840 millions de livres, donc ça fait 1,362 milliards de dollars, c'est en hausse de 12%. Les bénéfices sont en hausse de 24% à 425 millions de dollars. Et du coup, ça se traduit par une hausse pour les écuries de 8% de la redistribution. Ils perçoivent 750 millions de dollars quand même sur tout le chiffre d'affaires de la F1. Donc c'est bien plus que la moitié. Après, bon, on sait que ceux qui se taillent la part du lion, c'est toujours Red Bull, McLaren et Ferrari, donc c'est jamais redistribué et que Marussia, en tant que 11e de l'année dernière, ne touche rien du tout, quoi. Donc c'est un peu le contraste entre la situation financière de la F1 qui est bonne en elle-même, mais on sait que il y a 6 ou 7 écuries qui se doivent se serrer la ceinture pour survivre, quoi. C'est toujours ce contraste qui est un peu saisissant.
Alors même que la part de la Formule 1 dans les récents accords Concorde, la part distribuée aux équipes a augmenté.
Oui, parce que alors
le gâteau est plus gros et en plus la part qu'on donne aux écuries est encore plus grosse.
Alors qu'est-ce qu'ils foutent de ce pognon, quoi ?
Oui, il y a genre il y a genre 4 ans, on donnait, j'ai plus les chiffres en tête, mais il y a 4 ans, on donnait que 45% des chiffres d'affaires d'une section de l'entreprise de la F1 aux écuries. Maintenant, on donne à peu près 60% de tout le chiffre d'affaires, et pourtant, ça ne suffit pas, quoi. C'est la redistribution qui est beaucoup trop inéquitable.
Bah, voilà, on s'est arrangé pour donner plus à ceux qu'on a le moins besoin.
Voilà, c'est ça.
C'est bizarre. Hein. C'est le Venezuela, en fait, la Formule 1. On a du pognon, mais on le donne pas aux pauvres. Parce qu'un pauvre, s'il a du pognon, ça devient un riche. Non, il faut qu'il reste pauvre.
Sinon, il y a des questions qui se posent sur les F1 de l'an prochain, de 2014. Alors, il y a d'abord concernant le débit de carburant, puisque Dino, tu te poses la question, en tout cas, tu as vu cette actualité, la FIA pourra-t-elle vraiment contrôler le débit de carburant des F1 ?
Oui, parce que, alors, on rappelle l'année prochaine, le débit de carburant qui sera injecté dans le moteur sera contrôlé et devra se trouver dans une certaine fourchette.
Pour ça,
il y a des senseurs qui sont là pour le coup standardisés et pris par la FIA.
Messieurs les senseurs, bonsoir.
Ouais, c'est, non, ça s'appelle comment? C'est des
capteurs.
Des capteurs, voilà. Il y a des capteurs donc qui sont standardisés, qui ont été commandés par la FIA, donc ils ont un prestataire. Ils ont fait des tests lors des essais jeunes de Silverstone, et alors que normalement il est prévu qu'il y ait une marge d'erreur de 0,5%, la marge d'erreur constatée est de 1,5% lors des essais de Silverstone.
Oups.
C'est-à-dire grosso modo, c'est qu'il y a une marge pour tricher. Donc en état, la FIA ne sait pas s'ils seront en mesure de contrôler le débit d'injection du carburant dans le moteur. Et donc peut-être qu'ils vont devoir se fier aux données des équipes. Donc les équipes vont devoir leur dire, ils passeront par la course. Non, nous on était dans le bon débit.
99,9 kilos on a utilisé.
Nous on était parfait, voilà. Donc voilà. Apparemment, bon, c'est il y a encore du développement à faire, il y a encore
pas
des essais à faire. C'était que les premiers essais, mais c'est un petit signe d'inquiétude. Et quand on voit qu'il leur a fallu du temps pour régler les logiciels et compagnie pour le DRS en début d'année, on peut dire que le début d'année prochaine sera peut-être intéressant.
Et puis il faut dire, c'est pas des tests en situation réelle là, encore. Ils ont été obligés de faire ça sur les bancs d'essai. Du coup. Bah, il faudra voir. Le problème, c'est qu'il faudra voir en janvier qu'il y aura que 2 mois, même pas 2 mois, pour réagir si jamais il y a un problème, quoi.
Et alors l'autre question, c'est plus sur l'aspect des voitures, puisque déjà on est en train de laisser supposer que peut-être les fins 2014 seraient moches, hein. C'est notamment, c'est venu un peu de Red Bull, un peu de Ferrari, je crois que c'est du côté de Marc Gené qui a dit ouais bon, j'ai pas encore vu la voiture, mais bon, ils sont un peu inquiets par rapport au nez avant des futurs
oui.
F1.
Oui, parce que le nez arrière, il va mieux, lui.
Non, mais par contre, l'arrière risque d'être beaucoup plus fin, on dit, comme en plus, il n'y aura qu'une sortie centrale pour le moteur.
Les pontons auront besoin d'avoir une plus d'ouverture en avant pour mieux refroidir le moteur, le turbo, etc. Par contre, effectivement, on n'aura pas de protubérance pour les échappements parce qu'il y aura un échappement unique et central. Donc, du coup, ça sera beaucoup plus resserré sur l'arrière que aujourd'hui. On aura moins de protubérance, un peu bizarre.
Les inquiétudes, c'est plus sur l'avant avec des nez crochus, visiblement. C'est pas.
Moi, je comprends pas. Déjà, il y a une illustration d'autosprint qui, à mon sens, hein, je dis bien à mon sens, mais traduit d'une voiture qui est pas légale. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris la Ferrari d'aujourd'hui. Ils ont gardé la monocoque intacte, donc la monocoque de la Ferrari, elle est plate sur le dessus, elle est à 625 mm de hauteur. Et à partir de là, ils ont fait redescendre le nez vers sa hauteur réglementaire en 2014, il sera 285 mm. Donc effectivement, voilà. Ça fait un nez crochu que Newey a qualifié de laid, hein, c'est Prost et Kubica, ils vont être contents. Mais le problème, c'est que il y a un article du règlement dans le règlement 2014 qui dit que la monocoque en elle-même, elle doit pas faire plus de 625 mm de hauteur, donc comme la Ferrari là. Sauf que la face avant de la monocoque, elle ne doit pas dépasser 525 mm. Donc du coup,
c'est-à-dire que déjà ça descend.
Ça va descendre beaucoup plus proche de l'ouverture du cockpit que ce que ne traduit ce dessin là. Après, quand Newey te dit que ce sera moche et que c'est trop crochu, je me dis peut-être que j'ai mal lu, enfin peut-être qu'il y a une erreur dans le règlement ou que le règlement est pas définitif. Enfin, voilà. Mais à mon sens, c'est pas un aussi grand problème.
Si tu veux, c'est peut-être possible dans le règlement de faire une voiture réglementaire qui ressemblerait, voilà, on va dire à la Braun. Mais comme ils ont besoin d'énormément d'air,
alors peut-être, ouais,
voilà, peut-être que réglementairement, ils peuvent faire une voiture comme la Vrode, mais que par rapport à leurs besoins actuels d'une voiture en 2014, ils ont tellement besoin d'air en dessous qu'ils sont allés très, comme d'habitude, très loin dans le règlement, et qu'en effet, on va peut-être avoir des nez très crochus.
Voilà, donc pour l'instant, affaire à suivre. Sachant qu'il y a d'autres limites sur le nez que j'ai pas en tête, mais qui limitent de toute façon l'aspect crochu du nez. Alors après, je vais peut-être m'amuser à tracer ça sur un papier, mais affaire à suivre.
De toute façon, d'ici 3 mois, on saura.
Oui.
Et on sortira la voiture du SAV avant les autres, on va dire.
Ouais, bah voilà.
On n'est pas moins bon que Newey quand même, ça se saurait.
Oui, puis comme le dit Alix ou Alix, on s'habituera comme à chaque fois, malheureusement. On trouvera pas forcément ça beau, mais bon, on s'habituera.
Ouais.
C'est triste de s'habituer aux trucs moches.
Ne perdez pas espoir. Peut-être que il faut y croire. On ne sait jamais.
Là, ce qui m'énerve, c'est qu'on prend toujours une Ferrari pour faire ce genre de montage.
Bah, en même temps, c'est auto-spin.
Je veux pas savoir, il y a Toro Rosso, merde.
Allez, on a fait le tour à peu près des actus. On va revenir sur le sondage.
Oh, c'était quoi le sondage?
C'était un sondage cinéma.
Ah oui.
Puisque vous avez demandé, voilà, quel film feriez-vous sur la F1? Vous avez été 121 à voter. Merci à vous tous d'avoir voté pour ce sondage. Est arrivé dernier avec 4 votes le remake d'E.T. avec Bernie Ecclestone. 5 votes ex aequo, on trouve Les Oiseaux sur les Pigeons Ninja de Monaco, ainsi que le film sur le moment clé de la vie de Nelson Piquet Jr., son accident à Singapour.
Le remake d'E.T. avec Ecclestone, il dit quoi? Il dit pognon. Non?
Mon dieu.
Non, c'est bien, t'avais pas encore fait un sport, donc voilà.
Ouais, ouais, bah, moi qui ai ta gueule.
7 votes, M. Le Maudit avec Montoya. 8 votes, un film de Roland Emmerich avec Romain Grosjean. 10 votes, on trouve le fameux film roumain de 7h27 en noir et blanc muet sur le Grand Prix de Singapour avec des comédiens amateurs.
Quelle déception.
13 votes, la carrière en F1 de Yuji Hide. Et donc le podium. Est arrivé 3ème, la sextape de Max Mosley.
Bah, ouais, on a tous vu ça déjà, de toute façon.
2ème avec 23 votes, Rush 2, la rivalité 2004 entre Schumi et Barrichello.
Alonso et Nelson Piquet, la Porsche aussi.
Et donc premier avec 32 votes et 26% des voix, Very Bad Trip 4, The Kimi Raikkonen Edition.
Fanbase à jouer. Hein.
Moi, je suis content. Alors messieurs, une petite idée pour le sondage de cette semaine?
Ce que je propose, c'est qu'ils vont nous faire des propositions et on viendra sur le sondage à la fin, je te dis.
Oui.
On verra un petit peu ce qu'ils vont nous proposer comme idée de sondage et puis...
S'il y en a une, on va rien faire pour une fois.
Voilà, on est des grosses feignasses, nous.
Ah bah attends, il y a l'idée de sondage et ensuite, il faut le faire, le sondage.
Bah, voilà, écoutez... vous proposez une idée sur le chat et si l'idée nous plaît, bah, on essaiera de broder des propositions derrière. Mm. Et nous, on va chercher aussi de notre côté si on trouve quelque chose de bien.
Bah, dans ce cas-là, passons aux citations, hein, le temps qu'il y ait des propositions. Vous avez bien pensé à chercher des citations?
Oui.
Oui,
oui, bien sûr.
Comment ça s'y habituer?
J'ai une citation, je ne vais pas vous dire qui l'a dite. Vous allez essayer de deviner. Mm. Attention, c'est un mini-jeu.
Oui, vas-y.
La réponse n'est pas forcément subtile. Vous ne gagnerez pas demain en remplaçant Dominique Ali. Dominique Ali n'est pas le problème. Dominique Ali, le premier arrivé au travail le matin et le dernier à partir. Si nous avions gagné en 2012, Dominique Ali aurait été un phénomène. Il aurait bien fait son travail. Et c'est qui a déclaré ça?
Dominique Ali, je l'ai lu.
C'est Dominique Ali. Dominique Ali qui a une petite Delonite aiguë. Hein,
ouais, c'est ça.
Qui se met à parler de lui à la troisième personne.
Ah, il vote très à droite aussi.
Ah. Oui, c'est une manière de dire très à droite. Oui.
Voilà, sinon, tiens, moi aussi j'ai une citation où il faut trouver qui l'a cité. C'est concernant peut-être son arrivée en Formule 1. Ce serait une décision irréfléchie et qui ne mènerait nulle part. Je préfère attirer l'attention avec mes victoires et pas seulement avec le fait que j'accède à la F1.
Un Rubens Barrichello?
Non.
Van Doorn?
Non. Jen, une idée?
Non, je vois pas là.
Eh ben, c'est Daniil Kvyat, il y a un mois.
Ah. Oui. Entre temps, il a gagné.
La différence qu'un mois fait.
Voilà. Il y a un mois, il estimait qu'il a... voilà, il devait encore apprendre dans les séries inférieures. Il a appris un mois de plus.
Et on remercie le
vite, pour donc,
dire ah merde, c'est Patrice Evra. Voilà. C'était une bonne position. Ça aurait pu coller. Mais on parlait de victoire, donc c'est
Totor, il l'avait trouvé.
Moi, j'ai retrouvé la mienne. C'est toujours concernant Kvyat, là. Donc, c'est Helmut Marko qui disait « Nous avons donc voulu prendre le risque de faire monter un pilote GP3 en Formule 1. Lorsqu'on ne prend pas de risque, on ne s'amuse pas. » Donc, la dernière partie de la phrase « Lorsqu'on ne prend pas de risque, on ne s'amuse pas. » Je trouvais ça assez osé de sa part de dire ça. Je sais pas, ça veut dire... Pour moi, quand je lis ça tout de suite, c'est que il prend le premier venu et il va s'éclater à voir se planter dès sa première année. Enfin, c'est ce que j'ai eu en tête quand j'ai lu sa phrase.
Mais déjà, on peut pas dire que Helmut Marko soit un marrant.
Voilà.
Ah, mais ça, t'es pas autrichien, mais en Autriche. C'est le Coluche de l'humour.
Il fait un tabac. Le Helmut Marko Comedy Club, quoi.
Donc, il reste Gus?
Oui, alors j'hésite un peu. Si, quand même, la première que j'ai, C'est une citation de Kimi Raikkonen qui parle de Vettel. Il dit « Il n'a plus besoin de remporter d'autres courses et d'autres championnats. Il a déjà accompli énormément de choses depuis le début de sa carrière en F1. » Un peu du genre « Bon, c'est bon, et t'as prouvé t'as prouvé ton truc, c'est bon, tu peux t'arrêter, hein, laisser un peu aux autres. » Je veux dire. Non, c'était rigolo. Ouais. C'est un bel hommage, mais on sait qu'ils sont amis. Donc c'est pas surprenant, c'est juste un peu comique, quoi.
C'est vrai qu'il y a un double sens dans cette citation qui est assez
oui.
qui est kimiesque.
Il est rentré dans l'histoire, mais bon, pas trop quand même, quoi.
Nous aussi, on aimerait rentrer quelque part.
On est là.
Si tu veux, je te fais rentrer dans des boîtes et tu me fais rentrer dans l'histoire. on se partage, échange de bons procédés.
Ok, alors on a déjà eu des propositions pour le sondage. Alors, j'ai noté, il y a quelle reconversion pourrait-on trouver pour des pilotes de F1 ? Quel nouveau design pourrait-on trouver pour des casques pour Vettel ? Quelles innovations pourrait-on amener pour améliorer la F1 ? Quelle célébrité pourrait faire de nouveaux pilotes de Formule 1 ? Quelle est la F1 la plus moche de l'histoire ? Ou aussi le top 10 des idées de Mario Kart à adopter en F1 ?
Tu peux continuer à les noter ?
Oui, je vais continuer à les noter.
T'allais dire, Dino ?
Non, mais une proposition qui est sympa.
Oui.
Moi, j'ai une idée qui me plaît bien, qui est un peu inspirée de celle d'Alex, qui dit les pilotes qui ne sont ni passés par la F3, ni par la GP2 ou la Formule 3. Et ce qui pourrait être intéressant, c'est de dire quel prochain pilote inconnu, et on invente des noms, et on voit qui vote, on voit quel nom va sortir du lot. Mais pas forcément des gens qui sont vraiment impliqués dans des championnats.
Tu veux faire un sondage avec des noms complètement inconnus, qui n'existent pas.
Voilà.
Et les gens vont voter. Les gens vont voter pour des noms qui n'existent pas.
Il faut donner un trait de caractère du pilote quand même.
Oui, enfin, voilà, à la limite, ouais.
Ah, je sais pas, c'est un peu bizarre quand même.
Ça fait bizarre quand même, hein, oui.
Ah, mais il faut prendre des risques pour s'amuser.
Dixit, Marco.
Regardez, je me cache un œil. Il faut prendre des risques pour s'amuser.
Ça y est, il y a déjà les noms qui commencent à arriver là. On a du Obi-Wan Kenobi,
on a Raoul Sarol.
Non, c'est ça. Il faut trouver des parodies de noms d'acteurs actuels de la F1 comme la Patrice Evra. Les commentateurs, putain, Thibaut à la rue.
Ah oui,
Thibaut à la rue, ça c'est pas mal.
Il va plus venir, hein.
C'est Patrice Evra. Comment Patrice Evra appellerait les acteurs de la F1, quoi, je veux dire. Thibaut à la rue, Julien Tégraud. Ah, c'est ça le principe, hein. L'humour d'Evra,
ouais,
il est pas très très drôle, hein.
Mais... Tu sais, machin tour de vie, c'est tout. Pasteur, j'ai plein de poules.
Elle est pas mal, celle de James Ismad.
Ouais, il faut que ça rime. Je veux dire, Roland Tournevis.
Oui, alors Roland Tournevis, moi c'était beau.
C'est pas Roland que la molette, quoi. C'est parce qu'il s'appelle Tourbisque.
Moi déjà, je vais quand même noter celle de Gus Gus, c'était Thibaut à la rue.
On part sur ça, j'ai pas l'impression que ça vous transcende.
Non, mais j'aime bien. Après, faut
donc
juste,
vous voulez qu'on parte sur donc un truc, voilà. Comment Patrice Evra.
Thomas Sénégal. Merci, James Ismad.
Mais quelle serait la question du sondage ? C'est ça que j'ai du mal à...
Comment Patrice Evra
si
appellerait
Evra
les acteurs ?
Comment désignerait-il les acteurs de la F1 ? Voilà.
Mais il les désignerait tous. L'idée, c'est que les gens en choisissent un, tu comprends ?
Ouais, bof. Si vous étiez Patrice Evra...
Voilà, tu prends les 10 têtes à claque de la F1. Désolé,
après on peut être sur des complets anonymes et mettre les noms.
Vous pourrez mettre si vous étiez Patrice Evra, qui considériez-vous comme la plus grosse tête à claque de la F1 ?
Il y a James Smith qui nous dit Fabien Gaillard. C'est vrai qu'on change pas.
Est-ce que ça vous plaît ce genre de formulation ? Parce que
oui,
tu y aller à fond parce qu'il faut qu'ils en choisissent un, quoi.
Voilà, non, c'est une belle formulation. Donc ça laisse Thibaut à la rue.
Attends, déjà je note la question. Donc, si vous étiez Patrice Evra, qu'est-ce que j'ai dit Qui désigneriez-vous comme la plus grosse tête à claque de la F1 ?
Voilà.
Moi, je sais pas, mais je serai à la place de Pierre Ménès au prochain Canal Football Club. Je, devant la télé, je fais 7 jongles.
Mais bien sûr.
Non, il a dit qu'il ne
je fais 7 jongles et je dis, bon bah, tu tiens tes promesses, hein.
Ce que je lui ai dit sur Twitter, mais il m'écoute pas. Bon bah déjà il y a
Jean-Louis chat, hein, sur le chat, faites vos propositions, on verra si elle est...
Déjà il y a Jean-Louis Moncul.
Donc on a Thibaut à la rue. Est-ce qu'on garde Thomas Sénégal?
Ah oui, je trouve ça marrant. C'est... Je devrais peut-être pas, mais...
Ce sont les jeux de mots, hein. Nous on n'a rien contre les gens. Faut le dire.
Oui, ouais, limite, pourquoi pas... Ouais, Thomas Sénégal, ouais.
Bon, j'ai noté Thibaut à la rue, qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Bah, Thomas Sénégal, les gars, dis-le.
Oui, ça aussi, je l'ai noté.
Julien Fiévreux, ou Julien Fébourg, ou Julien... Julien.
On est d'accord qu'on reste quand même un peu familiaux dans les noms, quoi. Enfin, on va pas, on part pas dans les...
Non, oui, non, faut pas...
Sinon, j'ai deux, trois idées, mais...
Gaëtan Bûcheron, de la RTBF.
Ah oui.
Oh, ça va être un beau dernier, ça.
Ah, il y a... On a un certain nombre d'auditeurs belges, donc...
Ah, Christophe Malbranché.
Non, Christophe Labranque.
Ah, Christophe Labranque.
Dire, cherchons pas si loin, quoi. On va se faire des amis dans le paddock.
En fait, vous êtes en train de faire la liste des invités qu'on n'aura pas, c'est ça.
Il faudra juste pas faire trop de pubs sur cette émission.
Julien fait le beau, c'est pas mal aussi.
Il est fiévreux ou il fait le beau?
Je sais pas.
J'ai une zone acné.
Attention, on est sur des... précisons aux gens du chat, on est sur des commentateurs. Rappelons, Evra, il a pas de problème avec ses collègues, il s'entend super bien avec tout le monde. La France l'adore, mais les commentateurs, c'est des gros connards, c'est des clochards.
La France l'adore, oui.
Moi, je l'ai vu la dernière fois, Evra, je lui ai dit, écoute, je t'adore.
Il t'a dit connard.
Quand t'es pas en équipe de France, je t'adore.
Je dis, je t'ai rien dit, mais t'es connard quand même.
Donc, attends... Donc on a dit Thibaut à la rue, on a ensuite...
Thomas Sénégal, Julien Fiévreux, Gaëtan Bûcheron et Christophe Malbranché. Moi, je suis désolé, mais parce qu'il faut quand même qu'on ait de l'autocritique, je pense qu'il faut au moins qu'on mette ces connards du SAV de la F1.
On va peut-être éviter de mettre ces connards.
Oui, mais nous, on a le droit de s'auto-insulter.
Ah, on peut mettre...
Yannick Tessou.
Toi, on va en chier.
C'est clair.
Mettre les gars du SAV, ouais.
Mais admettre, on peut tous les mettre dans le... Ouais, dans une seule proposition pour...
Oui.
On met un truc global ou vraiment on cherche des trucs avec nos noms?
Non, on va mettre un truc global.
Oui.
Parce que même nos noms, c'est pas sûr qu'ils connaissent nos noms et nos noms.
Bah oui,
salut,
voilà, c'est bon ça.
Et moi, je me vois mal réussir à trouver un équivalent de mon pseudo qui ne soit pas Dino.
Mike Patton propose ses petits trous du cul du SEV.
Ouais, trous du cul, ça reste encore le mot cul. C'est, moi, ça me dérange pas. On serait sur le site du SEV, j'assumerai. On est sur le site de Falefa, j'assume moi.
Ah, Totor propose Martine Bellegueule pour Martine Brundle.
Martine Pringle, moi j'avais.
Martine Pringle, j'aime bien.
Ça fait plus britannique, c'est pas mal ça.
Jean-Michel, je sais pas trop. Mais c'est pas un mec de la Formule 1. Jean-Michel, je sais pas trop. Merde.
Ou alors c'est tellement éloigné qu'on est à la masse là sur le.
Jacques Lafuite.
Il y a Elder qui en a une très bonne sur Jacques Lafuite, mais c'est pas sortable.
On en est à 7. Sans compter celle du Jean-Louis, oui.
Jean-Louis Moncake.
Ouais.
Donc attends, répète-nous les 7.
Alors, j'ai Thibaut à la rue, Thomas Sénégal, Julien Fiévreux, Gaëtan Bûcheron, Christophe Malbranché, Martine Pringle, Jacques Lafuite.
Il faut donc... un truc pour Antoine Arlo.
Antoine Allo. Antoine Ballot, sinon, je sais pas.
Ah, Antoine Ballot, oui, ça fait pas bien, oui.
Ouais, j'ai pensé à Antoine Ballot aussi, tout de suite. Mmh. C'est pas mal.
Et puis, l'inévitable Pierre Van Vliet.
Ah oui, Pierre Van Vliet, ah ouais. C'est une version plus sortable.
Là, on en est à 9.
9. Jean-Louis Moncey, tu l'as mis ou pas?
Non, je l'ai pas mis.
Donc il faut le trouver. Moncey, il y a Monceau.
Helmut McDo.
Ouais, mais c'est pas un commentateur.
Non, on est sur les commentateurs, donc.
Jean-Louis. Puis Jean-Louis Moncey, on est quand même obligé de le mettre.
Oui, parce que...
un gros chance de gagner.
Parce que non, on a envie de lui donner des claques, quand même. Je parle en mon nom personnel, mais...
Bah, comme on est, comme Evra a ouvert la thématique des outils, on peut dire Jean-Louis Moncier.
Jean-Louis non sec.
Mais ça finit en sec.
Il y a Jean-Louis Monceau.
Ouais, mais ça finit en saut.
Jean-Louis Poncé.
Jean-Louis Poncé, c'est pas mal ça. Allez, va pour Jean-Louis Poncé.
Donc là, on en a dit.
T'as pas passé deux heures sur un sondage à la con. Parce que rations tous les gens qu'on cite, hein, c'est un sondage à la con. Hein. Soyez
oui,
clairs.
Oui, précision. Nous ne sommes pas Mathieu Sévra. Bon, par contre, il n'y en a aucune sur le SAV. Hein.
C'est pas grave.
Ah, il y a Alex qui nous dit Jean-Louis Poncé, sinon.
Non, Poncé, c'est bien. Parce qu'on est dans la thématique du bricolage.
Il veut être dans la thématique du bricolage.
Mais attends, peut-être qu'on va réussir à en virer un sur les 10 que t'as là. Vas-y, répète les 10 pour voir.
Donc, Thibaut Allarue, Thomas Sénégal, Julien Fiévreux, Gaëtan Bûcheron, Christophe Malbranché, Martine Pringle, Jacques Lafuite, Antoine Ballot, Pierre Von Fritt et Jean-Louis Poncé.
On peut peut-être virer Pringle.
Ouais.
Parce que c'est le seul
non francophone.
Et comme ça, on peut mettre les gars du SAV.
Qu'est-ce que c'est?
Enfin, l'équipe du SAV.
On met juste l'équipe du SAV?
Non, mais non, ça va trop avoir de votes. Hein. Ça fausse le résultat.
Mais oui, mais on peut pas faire un truc comme ça ne pas se mettre dedans.
Ah, on peut dans ce cas-là, on peut faire un truc, c'est genre, au lieu de
Pino, on met Pino. Les absents ont toujours tort, mais Fabien Gaillard.
Mais non, mais sinon, on met un truc avec nos différents pseudos, mais on met tous nos pseudos, mais des versions modifiées. Moi, au lieu de Dino, c'est Pino. Gus Gus et Gugus.
Ouais, c'est chercher au moins.
Ouais, ça veut dire.
Shinji, ça va être...
Shinji.
Chin Chin. Comme Chin Chin d'Afelou.
C'est très bien.
Fab, ça va être Fab. Fab, tu le gardes pour la fin, tu vois. Tu mettras 3 points de suspension et Fab. Hop, à la fin, tu mettras Fab. Jenny, tu mettras
Ah, c'est évident là.
Bah, je pense à Penny, mais Bon, Elder, Mulder. Mulder, Mulder, Munster, Munster. Allez, va pour Munster.
Va pour Munster.
Il manque qui l'autre? Ah, bah, il manque Ben.
Zen, je crois.
Ben, Bin, Boon, Ban, Bune. Bune,
c'est
Bune.
C'est plus dur quand c'est court.
Ouais.
Ah, je me comprends.
Bin, Boon, Ban, Den, Sen, Pen, Pen, Pen. Ah, Pen, peut le faire, Pen.
Tu l'écris comment?
P-E-N.
D'accord.
Le Pen.
C'était recherché.
Le Pen. Putain, c'est que la première fois qu'un Le Pen me fait rire.
Il manque plus que Jen.
Oasis, il a dit pour Elder, monsieur propre. C'est pas gentil. C'est pas gentil, Oasis.
Non, voilà. Pour Munster, on peut mettre Trevor de GTA V, mais faut connaître.
Oui.
Vous voulez savoir quoi ressemble Elder? Joue à GTA V.
Regardez une photo d'Adrian Newey.
Ah, pour Jenny, il y a Kenny.
Oh mon dieu.
Kenny. Oh mon dieu, qui a qui?
On part sur Kenny?
Ouais. Allez.
Alors ça donne quoi?
Et ça fait Pino, Gus Gus, Chin Chin, Munster, Pen, Kenny et Fab.
Point Gus. Et Fab.
Pour une fois que c'est Gugus.
Oui, c'est Gugus, ouais.
Super.
Est-ce que j'ai besoin de rappeler? Oui,
oui, vas-y, si je rappelle.
L'intitulé du sondage. Celui qui fait qu'on n'aura plus jamais d'invité dans l'émission. Si vous étiez Patrice Evra, qui désigneriez-vous comme la plus grosse tête à claque de la F1? Vous aurez donc le choix entre Thibaut Larue, Thomas Sénégal, Julien Fiévreux, Gaëtan Bûcheron, Christophe Malbranché, Jacques Lafuite, Antoine Ballot, Pierre Van Fritt, Jean-Louis Poncé et Pino, Gugus, Chichin, Munster, Pen, Kenny et Fab.
Fab, il vient de me voir tout ça. Il sort de nulle part, Fab. Fab, ça fait trop, bon, le septième nom, on en a marre, tu sais.
Ouh. Bon bah, rappelons que pour voter, c'est sur fanf1.com, hein, l'article du SAV.
Il sera très content de voir ce sondage.
Faut en mettre dans l'article, hein, on vous propose ce sondage, mais on vous le rappelle, on vous aime tous. Ou tu peux mettre la plupart, bon, mais voilà.
Tu peux peut-être préciser dans la question justement que c'est le commentateur.
Oui.
Commentateur ou à qui on a envie de mettre des claques. Parce que c'est pas vraiment des acteurs de la F1.
Oui, c'est vrai.
Parce qu'ils pourraient pas faire Bijongle. Même si en Formule 1, c'est pas sûr que tout le monde sache faire Bijongle, mais bon. Ça, c'est un petit four. Le petit four du mardi soir.
Ouais, tu dis.
Voilà, si vous étiez pas
Serra, parce qu'il aurait dit à fond, moi j'arrête ma carrière.
Qui désignez-vous comme le commentateur le plus tétaclac de la F1?
Voilà, parfait. Ce qui m'inquiète, c'est qu'on risque de prendre cher à cause de moi. À cause de moi et Gus-Gus. On a une telle cote d'amour auprès de certains visiteurs de la F1 que je pense que si on est voilà, Gus et Pinot, c'est mort.
Oui, mais bon,
faut,
voilà.
Justement, c'est le pseudo qu'on prendra après quand il faudra refaire notre carrière.
Ah, c'est pas vrai comme question, bon, mais en même temps, voilà, c'est le sens du sondage.
Il faudra préciser à Margot Laffitte qu'on l'a épargnée.
C'est vrai.
Parce que c'est la meilleure. La meilleure, donc.
C'est pareil, elle a gagné tellement le sondage.
Margot Laffitte.
C'est vrai qu'on pourrait mettre Margot ou Jacques Laffitte.
Reprenons notre sérieux et passons au répondeur.
Le service après-vente de la F1 vous présente le répondeur du SAV. Vous avez une question? Nous y répondons.
Alors, pour ce répondeur, nous avons deux questions. La première, c'était une question qui, en fait, nous avait été posée par Quentin. On en avait parlé, c'était la semaine dernière. Enfin, il y a deux semaines, je ne sais plus.
Enfin, ouais, navigue la question, quoi.
Ouais, c'était sur les rétroviseurs de la Lotus qui, selon Quentin, avaient grandi depuis la Hongrie. Alors, est-ce que c'est le cas et à quoi ça peut bien être utile?
Alors, puisque c'est moi qui vais répondre, effectivement, c'est le cas depuis la Hongrie. Alors, avant tout, je vais peut-être rappeler déjà que les rétroviseurs sont régis par l'article 14 du règlement technique qui a trait aux éléments de sécurité dont doivent être équipés les voitures. À savoir que la surface réfléchissante des rétroviseurs doit faire pour chaque rétroviseur, un de chaque côté, 15 cm de largeur par 5 de hauteur, et la position elle est cadrée autour du cockpit en dehors de toute influence aérodynamique. Donc vraiment c'est un truc qui gêne parce que ça perturbe le flux d'air qui autrement ne serait pas perturbé quoi s'il n'y avait pas les rétros. Donc pour les aérodynamiciens c'est une tare et donc il faut faire avec en essayant de réduire au plus l'influence des rétroviseurs, donc en réduisant la traînée qu'ils apportent. Parce que vu la surface qu'ils occupent, c'est quasiment impossible de créer c'est très coûteux de créer de l'appui avec les rétroviseurs. Donc, au lieu d'augmenter l'appui qu'ils apportent, on diminue leur traînée, quoi, pour augmenter l'efficacité de la voiture. Donc, quand on veut diminuer la traînée d'un élément, il y a deux solutions. Soit on travaille sa forme pour le rendre un peu plus pénétrant dans l'air, donc c'est pour diminuer le coefficient de pénétration dans l'air, le fameux CX. Soit on fait en sorte qu'il occupe moins de surface frontale quand on voit la voiture de face quoi. Donc chez Lotus on a testé donc on engrille la première solution, c'est-à-dire qu'on a fait un objet plus gros mais qui était moins perturbateur de l'air. Donc quand on regarde de côté, ça ressemble beaucoup aux caméras en fait, parce que les caméras elles sont en forme de, comme on dit, de gouttes d'eau, c'est-à-dire que c'est la forme aérodynamique la moins celle qui pénètre le mieux dans l'air quoi, qui perturbe le moins le flux d'air. Donc quand on les regarde de côté, ces rétroviseurs, ils ont un peu cette forme, sauf que c'est une goutte d'eau qui est tronquée, l'endroit où il y a effectivement les miroirs qui sont collés dessus. Donc ça a un avantage que même s'ils sont un peu plus en section, les miroirs ils sont plus hauts que les rétros des autres voitures, et ils pénètrent mieux dans l'air, et ils font moins de perturbations que des miroirs qui sont plus petits mais moins moins travaillé quoi, moins pénétrant dans l'air. Donc chez Lotus on a fait ce choix après plusieurs phases de test, et j'imagine que s'ils l'ont mis ça en production, c'est que effectivement ça remplissait bien son office. En quelque sorte, en fait, il y a moins de traînée avec ces rétroviseurs qui est induite par les turbulences, parce qu'il y a moins de turbulences derrière les rétros. Par contre, il y a plus de frottement avec la carrosserie parce qu'il y a plus de carrosserie. Il y a plus de surface, quoi.
Oasis demande si on peut les rendre encore plus neutres aérodynamiquement.
Le problème c'est que vu du dessous en fait les rétroviseurs ils sont pas au niveau du plancher de la voiture hein, évidemment, et il y a une restriction de la surface
ça c'est vrai quand même.
Il y a une restriction de la surface qu'on peut voir de dessous de la voiture au niveau où il y a les rétroviseurs. C'est-à-dire que les rétroviseurs sont une exception à la règle qui régit le fond plat, quoi. Du coup, on peut pas faire des rétroviseurs qui seraient énormes, quoi, je veux dire, pour faire la forme la plus aérodynamiquement neutre possible. C'est toujours un compromis, là. Donc, le compromis de Lotus, c'est plutôt vers des rétroviseurs volumineux, mais moins perturbateurs, que l'inverse. On peut pas faire des énormes rétroviseurs, sinon, après, on peut l'utiliser comme des ailerons et ça devient une faille, quoi.
Alors sinon, concernant les questions audio, alors on a reçu deux en fait, mais une des deux n'avait tout simplement pas de son. J'ai envoyé un mail en disant peut-être qu'il pourrait nous indiquer la question, mais on n'a rien reçu. Mais on a quand même un message audio d'Adelin bien évidemment.
Salut à tous. Les images des caméras thermiques sont certes jolies, mais elles sont assez compliquées à déchiffrer. Par exemple, quelles sont les couleurs qui correspondent à des pneus à la bonne température ? Quand un pneu est noir, qu'est-ce que cela signifie ? Mais surtout, pourquoi les pneus ont l'air plus froids après le tour de chauffe ? Merci et à bientôt.
Remarquez, il dit pas au revoir, il dit à bientôt.
Ouais. Ah, il a fait le saut.
Il doit appeler plus précis quand même.
Ce qui confirme que c'est pas sa dernière question.
Oui. Eh bien, Adelin, puisque voilà. tu le dis toi-même, c'est compliqué à déchiffrer et à plus forte raison que la F1 étant un monde bien secret, on connaît pas la calibration des caméras, c'est-à-dire qu'on connaît pas du tout la correspondance entre la couleur et la température, parce que les écuries n'accepteraient pas que on expose au monde entier des données qui doivent rester secrètes. C'est le jeu de pas faire en sorte que les autres ne sachent pas à quelle température tu utilises tes pneus, quoi. Enfin, c'est une
Mais c'est les mêmes caméras pour tous, par contre.
Oui, c'est les mêmes caméras.
C'est les données qui peuvent être utilisées par les autres équipes qui, elles, ont un peu le gradient et ont un peu des données sur les fenêtres de température.
Elles ont leur propre caméra thermique, donc elles peuvent deviser à peu près à quoi correspondent les couleurs. Après, ça reste plus dur que en ayant la correspondance de la caméra thermique de la FOM directement, quoi. C'est-à-dire que
il y a les caméras thermiques de la FOM et il y a les caméras thermiques des écuries. Il y a deux types de caméras.
Les écuries le vendredi mettent leurs propres caméras qui sont pas reliées au système de la FOM. C'est-à-dire que la FOM elle a des boîtiers dans les voitures autres que les boîtiers FIA. Ils sont reliés aux caméras et à d'autres dispositifs. Mais les écuries pour pour récolter leurs propres données ont leurs propres caméras thermiques qui sont mieux calibrées, dont elles connaissent la calibration, qui sûrement ont une précision bien meilleure parce qu'on le voit, les caméras de la FOM elles sont pas en HD, quoi, les caméras thermiques. C'est des caméras de moins bonne qualité qu'une caméra que tu utilises pour une application comme la F1, quoi. Voilà, donc du coup on connaît pas la correspondance exacte entre les couleurs et la température. Donc on a une échelle relative, hein, bien sûr le blanc est plus chaud que le rouge, que le jaune, que le bleu, etc., que le noir. Voilà. Tu nous demandes aussi à quoi correspondent les pneus noirs. Alors évidemment, on peut pas donner une réponse précise, mais il me semble que Julien Frébreau à Monza avait demandé à la FOM et que la FOM lui avait répondu que c'était pas forcément, ça voulait pas forcément dire que les pneus étaient froids au point d'être inutilisables, quoi. Je veux dire, un pneu à température ambiante sera pas noir à mon avis, quoi. Enfin,
c'est que sur les caméras que nous on voit, en fait, c'est vraiment juste le gradient de entre la température du pneu quand il y a pas de contrainte dessus, donc on peut dire sa température de base, et puis la température quand ça augmente. C'est juste sur cette fenêtre là qu'on a mis un gradient de couleur, parce que sinon on verrait très peu ça serait jaune dès le départ.
On sait pas trop.
Juste jaune, orange, rouge, quoi.
On sait pas trop, parce que finalement on voit qu'un pneu dans le virage passe directement au jaune rouge. Alors moi les couleurs, ça fait deux, mais je vais quand même essayer de traiter la question. On voit que les pneus passent rapidement, prennent beaucoup de température directement dans un virage, ils prennent toute la ligne droite pour refroidir. Alors, c'est-à-dire que les pneus noirs, ils sont pas à 30 degrés, quoi. Je veux dire, ça doit au moins être, je sais pas, on parle de température d'opération des pneus autour de 100 degrés, ça dépend du type de pneu, mais voilà, ils sont, on va dire, à 80, quoi, ou 70. Mais ça, c'est quand même un pneu qui reste chaud, quoi. C'est pas un pneu à température ambiante. Donc voilà, mais ça ne veut pas dire que quand un pneu est noir, il est vraiment à trop basse température. Au final, on ne sait pas trop, mais on a juste cet écho de Julien Febro pendant les essais libres ou les qualifications de Monza, quoi, qui nous disait que ça ne voulait pas dire que c'était chaud, que c'était froid. Et puis dernière partie de la question, tu nous dis être surpris, Adelin, que les pneus soient plus froids après le tour de chauffe qu'avant. Le problème, c'est que les pneus sont chauffés grosso modo. Alors, j'ai pas d'infos exactes, mais de temps en temps, Franck Montagny donne des infos sur ce sujet. Grosso modo, on peut dire que les pneus sont chauffés autour de leur fenêtre d'utilisation, donc entre on va dire 90 et 120 degrés, quoi. Dépendamment encore une fois du type de pneu. Problème, c'est que pour maintenir ce genre de température pendant un tour de chauffe, c'est-à-dire à vitesse réduite t'as besoin soit de rouler à fond dans les lignes droites, parce que dans les lignes droites tu perds beaucoup de température quoi que tu fasses, ou de faire beaucoup de zigzags ou de freinages violents. Alors les freinages violents, c'est pas trop un problème. Par contre, les zigzags, quand on a des pneus comme les Pirelli qui se dégradent assez rapidement, le problème, c'est que tu attaques le pneu au lieu de le chauffer. Tu chauffes le pneu, mais tu le détériores. Et c'est comme c'est une composante très importante des Grands Prix ces derniers temps. On évite. On essaye de chauffer le pneu avec des freinages violents. On est à fond dans la ligne droite et tout d'un coup on freine, donc les freins prennent de la température et rayonnent un peu sur le pneu. Sauf que c'est un chauffage qui est beaucoup moins direct et donc ça prend plus de temps à prendre effet. Et donc de toute façon, comme dans le tour de formation, on est tour de chauffe, on est à vitesse réduite dans les lignes droites, le pneu a beaucoup de temps pour perdre sa température. Le but du jeu, en fait, c'est plus de maintenir la température de la couverture plutôt que de chauffer le pneu, en fait. C'est pour ça que le pneu est moins chaud quand on arrive sur la grille que au départ du tour de formation en sortant des couvertures chauffantes.
Et puis en plus le pneu il reste longtemps dans la couverture chauffante, donc on va dire qu'il chauffe en profondeur.
Oui.
Là où très rapidement il peut, quand il est à l'air libre et quand il roule, il chauffe que entre guillemets superficiellement ou que à l'intérieur, donc.
C'est-à-dire que la couche en profondeur, il reste chaud parce que c'est la couche externe qui est en contact avec l'air libre. Le problème, c'est que c'est cette couche externe qui est aussi en contact avec l'asphalte et qui fait que c'est là que les réactions chimiques entre la piste et le pneu se passent, quoi. Donc c'est là que la température du pneu est importante.
Comme dit McPatton sur le chat, le pneu est chauffé dans la masse, la caméra ne voit elle que la surface.
Ah, c'est exactement ça.
Ok.
Ce qui est intéressant d'ailleurs avec ces caméras, c'est qu'on commence d'ailleurs à le voir de plus en plus. C'est qu'on voit d'abord les pneus, mais on voit aussi tout ce qui relève de
le feu,
des échappements et du diffuseur, oui. Du fond plat, de la. Ce qui était hallucinant, je crois, c'est au Japon, c'était le bout du fond plat, la partie avant du fond plat, qui était mais rouge, bien chaud. Et on voit effectivement que c'est là que ça frotte et que là il y a un dégagement de chaleur à cet endroit-là.
Ah, c'est pas forcément que ça frotte. J'ai lu plusieurs hypothèses. Alors effectivement, ça peut frotter.
C'est peut-être aussi le frottement aérodynamique.
Non, parce que je pense pas, parce que l'air est à température ambiante, quoi. Enfin, je veux dire, ça peut pas frotter, ça peut pas. À mon avis, dans ces proportions, parce que ça rentre quand même dans les trucs des pneus, quoi. Enfin, ça s'affiche comme les pneus, donc à 100 degrés, ça m'étonne. Donc peut-être le frottement effectivement du fond plat sur la piste. Il y a d'autres suggestions que j'ai lues, que ce seraient des résistances qui permettraient d'évacuer la chaleur du KERS pour éviter quand tu recharges le KERS et que la batterie est pleine, pour éviter d'avoir un surplus et en fait pour que le KERS continue de marcher, on fait circuler le courant qui vient du KERS plutôt de le mettre dans la batterie, on le fait circuler dans des résistances pour éviter que
la
répartition des freinages change, quoi, que tu aies changé la répartition de freinage parce que tu désactives le KERS. Si jamais c'est ça que fait Red Bull, parce que c'était sur la Red Bull, hein, je crois qu'on l'avait vu, t'as pas à changer la répartition, t'as pas le KERS qui se désactive en plein freinage, donc à changer la répartition pendant que tu freines. Tu peux te permettre de laisser le KERS allumé sans faire déborder la batterie et sans avoir à toucher la répartition de freinage en plein freinage.
Et belle question de McPatton, toujours, est-ce que le carbone est caloporteur?
Je ne sais pas. Je préfère pas me...
Quel reporter qui porte la chaleur.
Ouais, je comprends la question, mais... beaucoup, beaucoup moins qu'un métal, je pense, quand même. Puis ça dépend du carbone, parce que le carbone, c'est quand même... quand on dit, même quand on dit fibre de carbone, enfin, ça va de matériaux qui vont de ceux qu'on utilise pour les disques de frein et les plaquettes jusqu'aux ceux qu'on utilise pour la carrosserie, qui sont pas les mêmes, donc... Enfin, c'est toujours difficile de dire est-ce que la fibre de carbone a telle propriété, parce que il y a différents.
Il y en a qui essayent de freiner avec des boules carrosserie. Maldonado, par exemple, souvent il se sert des boules carrosserie pour freiner.
Voilà. Ça marche moins bien, tu vois.
Donc, on vous rappelle, hein, si vous souhaitez poser des questions au répondeur, vous avez deux possibilités. Soit l'adresse mail, répondeur@savf1.fr, ou bien le module audio, donc, qui est présent sur le site savf1.fr.
Profitez-en,
ne posez pas
plus
que des questions techniques.
Non, c'est vrai, en plus. C'est pas limité aux questions techniques.
Mais rappelons qu'il reste, jusque d'ici la fin de saison, il ne reste plus qu'un mag.
Oh oui, c'est vrai que ça va s'enchaîner après.
Et voilà. On en fait deux après le Grand Prix. Ah, on verra après si on fait un mag ou si on fait une émission spéciale, ou parce qu'il y a des gens qui veulent revenir dans l'émission, donc peut-être qu'on sera obligé de mettre en place une émission spéciale. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des gens, on les invite une fois, ils veulent revenir. Voilà. Bon, on verra après le sondage s'ils veulent toujours revenir. on en profite d'ailleurs pour dire que la semaine prochaine, on sera toujours en direct sur le site du SAV de la F1. Soit dans le menu, vous cliquez sur direct, vous allez à l'adresse SAV de la F1, savf1.fr/live. Et on sera en direct pour le SAV du Grand Prix d'Inde avec Adelin, qui nous a posé la précédente question. Voilà, et avec sans doute, ouais, on l'a fait payer là. sans doute, espérons, prions sans doute avec Edler. Même si tout le monde sait que quand Elder est dans l'émission, il est là sans être là. C'est un peu un esprit.
On vous rappelle que pour la semaine prochaine, il y a aussi le concours. Donc n'oubliez pas l'adresse mail concours@savf1.fr avec votre réponse accompagnée d'une question et de sa réponse, bien évidemment. La question de la semaine. Jim Clark, Alonso, Stewart, Raikkonen, Damon Hill, Ayrton Senna, Nelson Piquet Senior, Michael Schumacher, Jody Scheckter, Giuseppe Farina, et je rajoute Jenson Button parce que j'ai vérifié.
Pourquoi dis Giuseppe Farina?
Ah, je sais pas, je ne parle pas italien, je me trompe peut-être.
C'est Giuseppe, qu'est-ce que tu m'inventes Giuseppe?
C'est même Giuseppe.
Tu rajoutes Jenson Button?
Oui, parce que j'ai vérifié et il y a aussi Jenson Button. Ce sont les seuls à avoir ce point commun.
Il a fait Jenson Button.
Ça, j'ai pas vraiment cherché, mais j'ai pas trouvé, quoi.
Moi, j'ai la réponse parce que j'ai des entrées et puis.
Oui.
Jenson Button, il a fait ça, c'est rigolo. Ça.
On l'oublie, mais Jenson Button aussi. Ce sont les
seuls. Ah, ils ont toujours été champions du monde.
Oui.
ils ont été que 10 à être champions du monde, disons.
Voilà, pas 11 avec Button, hein. Ils sont tous champions du monde. Mais pourquoi seulement eux? Pourquoi pas les autres?
Ouais. Ah, donc ça a bien un rapport avec leur titre de champion du monde.
Bah, tu remarqueras que les 11 sont champions du monde.
Oui, non, mais voilà, non, mais vu ta
Dino, si tu veux qu'on donne la réponse, on la donne, hein, je veux dire.
Non, mais j'ai vu la formulation de phrase, je te demande si ça a un rapport avec le fait qu'ils soient champions du monde.
Il y a un rapport, mais pas seulement.
Voilà. C'est un indice pour un peu simplifier la question.
Oui.
Et en même temps, me permettre d'avoir des pistes. est-ce qu'on a d'ailleurs déjà eu des réponses positives, des bonnes réponses?
J'ai eu une réponse, mais alors, pour être tout à fait honnête, qui n'était pas positive. Elle n'est pas bonne. Mais je le dis, tiens, à celui qui a envoyé le mail, il peut rechercher, il n'y a pas de souci, il renvoie un mail, il n'y a aucun souci.
Donc rappelons que c'est pour remporter un
sac. Alors Totor dit, il a fait quelques recherches, il n'a rien trouvé de bien transcendant. La réponse n'est pas forcément extraordinaire, hein, mais c'est un point commun qu'ils ont, ces 11-là.
N'hésitez pas à en proposer plusieurs, hein, on ne sait jamais, peut-être que dans l'eau, il y aura une bonne réponse.
Oui.
Si con, c'est qu'à un moment donné, il y a eu la bonne réponse. Mais rappelons quand même que vous jouez pour remporter un petit sac, un sac.
Force India.
Une besace, Force India. Et que bah, tous ceux qui répondront, mais qui ne seront pas sélectionnés, parce qu'on ne les aura pas sélectionnés, parce qu'ils auront proposé une question moyenne, pas sélectionnable, et bah, ils remporteront un petit ticket pour le tirage au sort que nous ferons d'ici quelques semaines. Pour emporter un magnifique casque à l'échelle 1, celui d'Ayrton Prost, d'Alain Prost en 1993.
Alain Senna.
1993, le casque avec le petit Sonic sur le dessus. Parce que Shinji et Gus Gus y tiennent.
Oui.
Oui. Alors, qu'est-ce que t'as vu pour Button?
Oui, j'ai vérifié, mais
effectivement. Et t'es d'accord?
Je me souviens pas.
Tout à... Oui, on s'en souvient pas, mais.
C'est fou, hein. Il est là depuis 2000, hein. C'est... Je donne pas la réponse, hein. On est d'accord.
Ah, ça y est. Ça commence à me dire.
Mais on vous le dit. Il y a un lien. On fait que ce soit 11 champions du monde. Mais c'est pas ça, parce que sinon, il y aurait pas que cette liste de 11.
Oui, parce que les autres sont pas là depuis 2000.
On vous rappelle que le SAV de la F1, c'est sur iTunes, c'est sur la chaîne Alpha de Pod Radio, c'est sur Podcast France, c'est sur Facebook, c'est sur Twitter avec le hashtag SAVF1 et nos différents comptes que vous pouvez trouver sur le site savf1.fr, là où vous pouvez assister à nos lives. Il y a une belle case en direct pour suivre nos émissions en live quand on fait des lives. On n'oublie pas
Il y a un live donc la semaine prochaine. Il y aura un live dans 2 semaines parce que c'est le prochain mag. Voilà, Abu Dhabi, faut qu'on voie comment ça va s'organiser. Hein, les 2 derniers grands prix de la saison.
Dans 2 semaines, c'est Abu Dhabi. Donc il y a un mag la semaine prochaine et un mag la semaine d'après.
Dans 3 semaines.
Oui, dans 3 semaines.
Voilà, ouais, bon, on se comprend, hein. Tu viens compliquer le truc. Les gens comprenaient parfaitement. J'espère.
Oui. Moi, j'avais pas compris.
Moi, tu comprends jamais rien, Gus Gus.
Ta gueule.
Ta gueule. Avant, tu me demandes de valider pour
tu fermes ta gueule. J'ai ta gueule.
Ah oui, c'est vrai. Ça va, attends, on arrive à la fin.
On se fait respecter quand on gagne le quiz.
J'ai cru que t'allais faire comme moi, que t'allais oublier. Voilà.
Oh, j'ai saisi l'occasion. J'étais pas loin.
La F1 sur Internet, c'est sûr.
FanF1.com.
Parce que le SAV de la F1, c'est...
La famille.
Le Ritz des podcasts.
Qui...
Et c'est un sponsor des Aventureuses.
Oui, là, c'est oui. Aventureuses. Effectivement.
Ça avance bien?
Ça avance très bien. Maintenant, il faut que tout le monde nous donne quelques euros pour qu'on puisse aller le plus loin possible dans l'aventure.
Et tu cherchais pas une imprimerie ou quelque chose dans le genre ?
Oui, aussi, mais je n'ai pas trouvé, donc voilà, donc, je fais un appel. Si une imprimerie veut être partenaire de notre équipage pour le trophée des Roses des Sables, eh ben c'est avec grand plaisir qu'on leur fera plein de pubs.
Et on peut dire il y a une page Facebook et un site.
Voilà, les Aventureuses, compte Twitter, page Facebook et un blog.
Ok. Je vous propose de nous quitter avec un dernier mot que ne dira pas Dino, puisque...
On fait toujours cette rubrique, hein.
Bah, en fait, le truc, c'est que... c'est comme vous voulez, vous savez quoi? C'est comme vous voulez, je m'en fous, voilà. Voilà.
Moi, je suis arrivé au bout des 3 mots de vocabulaire que j'avais, donc je dis les mêmes à chaque fois. Donc, au bout d'un moment.
Voilà, on va arrêter avec ces derniers mots et on va juste vous souhaiter à tous une bonne semaine, un bon Grand Prix d'Inde qui arrive ce week-end. Ça va, ça sera. Alors faites gaffe pour ce week-end parce qu'il y a le changement d'heure.
Ah, c'est vrai.
Le Grand Prix d'Inde, en plus, c'est le matin, si je ne me trompe pas. Je sais jamais. Oui, c'est
ouais, vers 10h, 11h.
Voilà, c'est le matin vers 10h. Faites gaffe, entre samedi et dimanche, on change d'heure, normalement, on recule.
Il y a Dino, il a plein de mots de la fin. Sur le chat.
Donc, faites attention, bonne course, à la semaine prochaine. Ciao, bye.
Salut.
Salut.